Dans le tempo, c'est l'épisode 52. On y va. Bienvenue dans DLT.
Très énergique.
Salut, j'espère que ça n'a pas saturé dans le micro.
Ah bah ça serait drôle, mais.
Ça serait, c'est possible. Ah ouais. C'est pas grave, c'est l'énergie, effectivement.
C'est lancement de qualité aéronautique, hein, incroyable.
C'est DLT, c'est le podcast dans lequel tous les 15 jours, on parle de musique. Toutes les deux semaines, on est là.
Oui.
De tous les aspects de la musique d'Az.
Oui. Tous.
C'est toujours passionnant.
C'est toujours passionnant.
Je suis d'accord.
Avec des passionnés.
Avec des passionnés, parce qu'effectivement, à chaque fois, on a des invités, il faut le dire.
Ouais, bah oui.
Oui.
Bah sans eux, nous ne serions rien.
C'est vrai. Quoi qu'on a fait il y a pas longtemps, un épisode juste tous les deux.
C'est vrai. Alors sans eux, on est quand même quelque chose.
On est quand même quelque
mais
chose.
On est moins que
vite
avec.
Chiant.
Ouais, voilà.
Vite chiant, ça, vrai, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on a combien d'invités aujourd'hui, Daz?
Ah, mais alors de qui s'agit-il?
Il s'agit de Cher.
Ça ou de Cher. Cire ou bonjour. De Séar. Putain, on sait pas.
C'est oui, la prononciation, c'est problématique.
C'est quoi? C'est Cher, on est d'accord?
Oui, c'est sûr, mais c'est bon, la prononciation de l'anglais du 93 au début des années 80. elle est aléatoire et sujette à question.
Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci pour l'invite.
Bah, avec plaisir. Il y a clairement eu connexion puisqu'on a reçu Ril Musul dans l'épisode précédent.
J'ai envoyé un éclaireur, un négociateur.
Un scout.
Un très bon négociateur, en l'occurrence. Parce qu'il nous a, en plus, c'est vrai, on a discuté de toi et nous a vivement suggéré de t'inviter. On trouvait que c'était pertinent.
Sinon, je le frappais. Donc.
Oui, parce que vous partagez une aventure avec Ril Musul, qui est celle de la nouvelle forme de Get Busy, sous forme d'émission radio, d'émission télé. Mais on va revenir sur ce que c'est exactement. Mais peut-être, Daz, avant que je présente Cher, juste rappeler... Enfin, dans cette émission, dans cet épisode, on l'a convié parce que ça fait longtemps que t'es dans le hip-hop.
C'était
au début même, en France.
Oui.
Très tôt, en tout cas. En tant qu'activiste, peut-être un peu après, mais
ouais.
Tu te prends le truc, en tout cas, quand il arrive.
Dès qu'il arrive, oui.
Et ça tombe bien parce qu'un truc qui revient de manière assez récurrente, tu vois, quand on parle de hip-hop, Daz, c'est le rapport au hip-hop aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui. Est-ce que le rap est encore hip-hop?
Le mouvement.
Le mouvement. Est-ce que c'est un mouvement fondamentalement de jeunesse? La question presque de son intemporalité, tu vois.
Est-ce qu'on peut être adulte responsable et père de famille et continuer à écouter cette musique de merde?
Effectivement, tu vois, c'est une vraie question.
Vraie question.
Et ça va être un des trucs dont on va parler avec toi, Cher, avec ton regard éclairé. Et puis surtout, ouais, t'as vécu toutes ces transformations de cette musique, de ce mouvement culturel.
Ouais. Oui, plus ou moins.
Bon, en gros, en tout cas, pour te présenter, t'es ado au tout début des années 80, tu te prends le rap avec, évidemment, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
Alors, si tu veux, déjà, bon, moi, j'étais assez précoce avec la musique, parce que je dis toujours, la radio était ma meilleure amie. Alors, je parle aussi d'une époque où il n'y avait pas encore les radios libres, où les radios libres étaient des radios pirates, en fait, hein, des radios qui émettaient sans autorisation sur la bande FM, mais à l'époque, bon, c'était encore RTL, Europe 1. Donc, moi, j'étais très tôt sur la musique, que ce soit bien la variété, que les premiers trucs de rock ou de New Wave de l'époque, ou des trucs comme ça.
La musique des jeunes, de l'époque?
Premier truc de ska, ouais, voilà. Ouais. À l'époque, pareil, hein, la presse musicale, c'est juste best et rock'n'folk, hein, tu vois. T'as pas de journaux de musique noire, tu vois. Et puis, petit à petit, j'ai glissé vers la soul. Enfin, si tu veux, quand j'ai découvert James Brown, ça a un peu effacé tout le reste, quoi, tu vois. Et après, plus ça, beaucoup la funk, ce qu'on appelle la funk de cité, quoi, tu vois, mais qui a aussi ses merveilles et ses... ces choses-là. Et après, donc, les premiers disques de rap arrivent, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, mais on sait pas vraiment ce que c'est, quoi. On nous dit que c'est du rap, on n'a aucune connaissance du hip-hop, c'est des mecs qui rappent sur un instru chic, hein, grosso modo. C'était pas déjà ce que je préférais à l'époque. Bon, c'est un tube, hein, donc tu l'entends partout, jusqu'à en vomir, quoi, tu vois. Mais déjà, les premiers trucs, c'est devenu un peu plus sérieux, c'est les premiers Curtis Blow. Voilà, ouais. Curtis Blow, ça, c'est tout. Mais c'est toujours pareil, on sait que c'est du rap, mais on connaît pas le hip-hop. Et après, en 82, il y a le Rap City Tour qui vient, organisé par Bernard Zécry, qui lui était déjà à New York avec Sophie Bromley et tout ça. Il fait venir donc les Rocksteady Crew, Mr. Freeze, Fat Five Freddy, Ramelzy, Futura 2000, et puis Bambata et DST.
Dans toutes les personnes que tu as citées, il y a à la fois des graffeurs, c'est vraiment encore l'esprit hip-hop de différentes disciplines.
Grosso modo, il ramenait le hip-hop. Et ça passe dans l'émission qui s'appelait Megahertz sur TF1, qui était présentée par Alain Manval. Et à l'époque, j'étais au lycée à Saint-Denis, et on voit ça à la télé. Alors, toute la partie graffiti de DJ ou un mix de tout, on ne comprend pas grand-chose en vérité. Et c'est pas ça qui nous interpelle réellement, c'est la danse. Quand on voit les Rocksteady tourner sur la tête, sur le dos, Mr. Freeze qui fait une moonwalk, avant qu'on voit Michael Jackson le faire. Hein, tu vois. Et le lendemain, au lycée, on parlait que de ça, quoi. Tu vois, c'était vraiment.
C'est comme ça que tu te prends le truc, quoi.
Ouais.
C'est vraiment par la danse, toi.
Et parallèlement, donc, t'avais les premières émissions sur les radios libres. Donc, t'avais Sydney qui était sur Radio 7, alors qui était une fausse radio libre dans le sens où c'était la radio jeune de Radio France. Okay. Et puis, t'avais les autres radios libres, dont une radio très importante qui s'appelait, au début d'abord, Carbone 14. Ouais. Donc, où t'avais les premiers mecs à faire des raps en français. Donc, c'était Phil Barney, t'as eu Dynasty aussi. Et puis une radio très importante aussi qui s'appelait RDH. Alors, c'était la radio des handicapés. Oui. C'était prémonitoire pour les hip-hop. Et donc t'avais Dynasty aussi qui était là après, Lionel D qui passait, et un mec très important qui s'appelait Bad Benny. Et autant de côté de ciné, il rappait mais en anglais, tout ça, il faisait du yaourt. Ouais. Et eux, c'était le premier mec à faire des rap en français, très sociaux, à la Grande Master Flash et tout ça. Et donc, je passe un peu du coq à l'âne, je reviens sur 82, qui est vraiment l'année charnière, parce qu'en même temps, là, quand il y a le truc qui passe à la télé, mais là c'est la même année où sort The Message de Grandmaster Flash et Planet Rock de Bambaataa sur le Sonic Force. Et les deux disques, c'est des claques phénoménales.
Tu sais ce qu'on va faire ? On va revenir sur ce qu'était le hip-hop pour toi à cette époque-là, quand tu le découvres. Mais juste pour terminer, dresser rapidement un panorama, puis on rentrera dans les détails un peu de ta carrière et de ta vision d'aujourd'hui. Mais donc tu te prends le hip-hop, début 90, tu deviens vraiment un activiste, disons, de ce milieu, puisque tu montes un fanzine.
Un petit peu avant, mais dans l'ombre, parce que je fais une rencontre qui est très importante, c'est Crazy Jam des IZB, son frère Angelo, qui est aujourd'hui patron de Live Nation. Et à l'époque, c'est vraiment un groupe très actif, très, très militant, très, qui essaye de faire bouger les choses. C'est les premiers à organiser des soirées. Mmh. Et c'est les premiers à organiser les premiers concerts de hip-hop avec la Kim Shabazz, Ultra Magnatic. C'est eux qui feront venir Public Enemy après, tout ça. Et moi, j'étais pris dans le sillage, dans ce tourbillon, parce que ça, c'est vraiment quelqu'un qu'il faudra inviter un jour. C'est les grands oubliés du hip-hop, alors que c'était quelqu'un d'important. Et c'est une personnalité complètement... indescriptible, quoi. C'est vraiment un mec. Et quand tu croisais son sillage, t'étais emporté par le tourbillon. Et donc, très tôt, on a été partout. Donc, on collait les affiches, on tractait pour l'organisation des concerts. Et on voyageait surtout. C'est eux qui ont organisé le premier voyage pour les anniversaires de la Zone Nation à New York. On allait aussi, on suivait les compétitions d'EMC à Londres.
Donc, ils sont les compétitions de DJing.
Ouais, voilà. Déjà DMC à cette époque-là.
Ouais. Il y avait Dynasty, qui participait, tout ça. Et puis après, ça a été Crazy Bee, Faster J, tout ça. Ouais. Comme Dynasty gagnait tout le temps en France, ils lui ont interdit de se représenter. Et cette année-là, c'est Jimmy J qui a été à la place.
Et tu sais, d'ailleurs, c'est un truc dont on parle assez peu, les DMC, parce que la France a de beaux représentants, y compris il n'y a pas si longtemps. Un mec comme DJnetic, par exemple, a gagné 4 fois les DMC à l'échelle mondiale. Enfin, on a quelques fiers représentants français.
Bah depuis toujours, en fait.
Mais Dynasty, nous a représenté avec brio là-bas. Et puis pareil, on a eu un concert. Il y a eu un concert un jour de Main Source, Eric B. Rakim et je sais plus qui d'autre à Amsterdam. Donc on bougeait partout avec ce groupe-là. Et c'est dans cette émulation-là qu'est né Get Busy aussi. Voilà.
Et puis, dans cette continuité, donc début 90, tu lances ce fameux fanzine qui a marqué toute une époque, donc Get Busy, qui va vivre différentes périodes.
Bâtard.
Oui, il va y avoir ensuite différentes renaissances. En fait, ça va pas durer tellement longtemps, on reviendra.
Non, à chaque fois, non. C'est ça qui est assez marrant. Je t'ai coupé.
Et puis non. Et puis ça devient à un moment un magazine, puis à un moment une émission radio, puis il y a pas si longtemps une émission télé chez Click. On pourrait aussi citer, entre temps, t'as bossé aussi sur un magazine authentique que t'avais lancé avec le crew de NTM, avec le management de NTM, qui accompagnait la sortie d'un album, si je dis pas de bêtises.
On a fait aussi un moment, on refait le rap avec Jean-Pierre Sec et Cachin. Ouais. Et Driver sur la fin.
C'était sur quoi ça? C'était un...
C'est à l'époque où Dailymotion, ils avaient fait leur studio.
Ah oui.
Ils avaient lancé l'émission, donc celle de l'ABCDR, la nôtre.
Ouais.
Et puis d'autres dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et donc voilà, c'est la petite...
Ça n'a pas duré longtemps, ça.
Il a explosé, leur studio.
C'est vrai, Dailymotion, ça a explosé.
Il a pris feu, là.
si des gens, d'ailleurs, j'en profite parce que tu nous l'as amené, veulent découvrir un peu le travail de Get Busy, à quoi ça ressemblait à l'époque, vous avez sorti en 2021 une anthologie d'énormément d'interviews. Alors dedans, on trouve des interviews Benoît Poulvord, Alain Chabat, José Bové, Jacques Vergès, évidemment aussi du rap avec RS1, Gangstar, Snoop Dogg... C'est extrêmement riche, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, et ça nous permettra aussi d'aborder des questions un peu plus de société et plus sociales, c'est que c'était toujours un truc qui vous a tenu à cœur de pas parler que de rap, de hip-hop, mais plutôt d'être dans un esprit hip-hop pour interroger plein de gens différents.
Ouais. Ça, c'est venu un peu après, parce que le fanzine était très hip-hop, vraiment très militant, très revendicatif, tout ce que tu veux. Et après, comme tu l'as dit, il y a eu l'expérience authentique. Mm-hmm. Moi, c'est un moment où j'avais arrêté le fanzine, parce que le fanzine, au bout d'un moment, tu peux pas aller très loin. Mm-hmm. Et puis la presse rap était arrivée, et puis on jouait pas avec les mêmes armes, donc on pouvait pas rivaliser. Donc j'ai eu une période de creuse comme ça où j'avais plus envie de toute façon. Et le management d'NTM est venu me chercher avec l'idée de faire authentique, et eux, ils avaient comme inspiration...
Tu traînais dans cet entourage.
Oui, parce qu'on venait de la même ville, on avait des amis en commun qui étaient dans NTM, ça a commencé comme ça, quoi. C'est plus par les entourages. Et donc le management avait cette idée-là, ils avaient comme exemple le magazine des Beastie Boys qui s'appelait Grand Royal. Et ça tombait déjà, donc c'était pratiquement 3 ou 4 ans après que j'ai arrêté le fanzine, et ça tombait déjà à une période où je savais que moi, je voulais plus parler que de rap. Parce que déjà, je pensais que le rap pouvait aller partout, en vérité. Comme tu as dit, avec l'esprit pop, on pouvait aller partout. Quand j'ai commencé le fanzine, j'avais 20 ans. Quand après, j'étais plus, j'avais plus le même âge, quoi, tu vois, donc les centres d'intérêt étaient autre chose. Et puis, moi qui n'étais pas vraiment un grand fan des Beastie Boys, j'ouvre le magazine, je vois 6 pages sur Bruce Lee. Ouais. Et je me dis, putain, mais nous, c'est notre jeunesse, on a grandi avec ça, on allait voir les films de Kung Fu, on allait Hollywood Boulevard, le cinéma de René Château, à Bonne Nouvelle, regarder tous les Bruce Lee, j'avais fait acheter à ma rhum le bouquin de Bruce Lee, de force. C'est notre culture, je dis, pourquoi? On a grandi avec ça, pourquoi? Parce que c'est pas soi-disant du rap, on pourrait pas parler de Bruce Lee si on a envie ou d'autres choses. Et comme eux, ils étaient d'accord aussi pour aller dans cette direction-là, c'était parfait, quoi, c'était bien concordant. Et après, c'est vrai que dans la lancée, on a relancé Get Busy après Authentique, et pour moi, c'était évident que je ne pouvais pas faire un magazine pour parler stricto facto que de rap. Je me serais ennuyé. Et j'ai jamais fait ça pour m'ennuyer. Quoi.
Ce qu'on va faire, c'est on va rentrer un peu dans le vif du sujet et revenir justement sur cette époque où tu tombes dans le hip-hop, ce que ça représentait pour toi. Alors, tu nous as donné déjà un peu l'historique, entre guillemets, mais peut-être à quel moment tu prends conscience que c'est pas seulement un truc, tu vois, qui passe à la télé, un truc qui peut te parler un peu musicalement, mais qu'il y a un état d'esprit autour de tout ça. Quand est-ce que tu prends conscience du hip-hop en tant que tel?
Alors assez vite, parce que, comme je te dis, moi j'étais un espèce de geek avant que les geeks existent, quoi. Donc j'étais vraiment à la recherche de toutes les infos, j'étais assez isolé et solitaire, donc j'étais vraiment... Je piochais partout et très vite j'ai compris ça, parce que déjà Sydney sur l'émission de Radio Z, j'ai commencé à recevoir plein d'invités des États-Unis, mais j'ai presque envie de te dire quand même... C'est même Solo qui disait ça quand on l'avait reçu. Finalement, les deux, on est devenus hip-hop quand l'émission hip-hop s'est arrêtée. Parce que ça avait pris une telle ampleur, ça a été un raz-de-marée, mais c'était
là, très... Là, tu parles de l'émission de Sydney sur TF1.
C'était très enfantin, c'était très basé sur la personnalité de Sydney, et au bout d'un moment, quand on a commencé à comprendre que le hip-hop, c'était un truc un peu plus profond que ça, cette image-là nous gavait, on en avait marre, tout le monde...
Mais c'est quand même ouf de se dire que à un moment donné, un mouvement embryonnaire, il s'est retrouvé avec son émission sur TF1.
C'est bien que tu dis ça, parce qu'il faut recontextualiser. C'est que pour les médias mainstream, ils voient ça comme une mode éphémère sur le moment. Ils voient bien qu'il y a un truc qui se passe et ils se disent on va le mettre à l'antenne, mais sans avoir conscience que ça va marquer de son empreinte comme ça et qu'il y a une profondeur, comme tu le dis, avec HIP, HOP.
Et les frères et les sœurs.
Mais c'est vrai que c'est une anomalie, parce que je crois que c'est la première émission télévisée dans le monde dédiée au hip-hop.
Avant les MTV.
Ah, bah largement. C'est quelle année HIP, HOP?
Alors il y en avait une autre qui s'appelle, je ne sais plus comment, Graffiti Rock, je crois. Je ne suis pas sûr. Mais ce n'était pas sur une antenne nationale comme la France. Non, l'émission de ciné, de façon...
C'est 84, non, j'ai une bêtise, c'est quoi?
83, oui.
83, wow. Et ça ne dure pas si longtemps, 4, d'ailleurs.
Ça dure très peu de temps, mais c'est un raz-de-marée. Alors c'est vrai aussi que tu as plein de gens qui sont là pour la mode, tout ça. Mais en fait, c'est toujours dans les périodes plus compliquées où tu vois qui reste, qui s'en va, qui était là en touriste ou machin. Donc quand tout ça se casse la gueule, malheureusement ou heureusement, le noyau dur se retrouve, et puis là, donc, je te dis, t'as les émissions sur RDH où t'apprends un peu plus, t'as le terrain vague, t'as le globo, tout ça s'enchaîne assez vite, en fait.
C'est un peu dur
de rappeler ça, mais tout ça va assez vite, finalement. Tout ça, c'est en moins de 5 ans, quoi, tu vois. C'est pas beaucoup à l'échelle du temps, en vérité. Et tout s'installe comme ça, et là, on vient à une époque vraiment plus underground, plus réel, plus profond, et on est complètement emporté par ça. Mais si tu veux, même dès le début, gamin, t'as ce truc-là avec Bambaataa qui nous arrive, puis Unity, Love, Having Fun, transformer l'énergie négative en énergie positive, tout ça est très naïf, très enfantin, mais on y croit complètement, et on est emporté par ce truc-là.
C'est ça que tu prends, c'est vraiment le côté Zulu Nation.
Et puis tu sais, quand je te parlais de la musique qu'on écoutait, la Zulu Nation, c'est, à l'époque, c'est vraiment la maison mère du hip-hop. À l'époque, la Zulu Nation, elle est très importante aux États-Unis. Bambaataa, c'est vraiment une haute autorité dans le hip-hop. aujourd'hui avec toutes les controverses qu'il y a, puis tout le côté désuet que c'est devenu. Mais à l'époque, oui, c'est une voix qui est écoutée, c'est lui qui règle des conflits entre rappeurs, c'est vraiment... Et puis la Zulu Nation aussi, c'est des anciens gangs, c'est des gros bras aussi, c'est des gens qui sont respectés par la peur aussi un peu.
C'est marrant, parce que, juste pour, un peu pour les gens qui connaissent un peu moins tout ça, c'est que avec le recul aujourd'hui, on sait que le hip-hop est extrêmement protéiforme, que plein de façons de faire du hip-hop sont véhiculées même dès le début. Il y a à la fois l'aspect social, parfois pas du tout, juste faire la fête, etc. Et que pour la France, enfin, je ne sais pas si d'ailleurs toi tu as un exemple qui permet de comprendre ce que tout le monde se l'est pris comme ça, mais c'est vraiment le côté Zulu Nation avec cette idée peace, love, having fun, unity, etc. Qui définit le hip-hop d'une certaine manière dans sa globalité. On n'a pas encore conscience qu'il y a plusieurs façons d'être hip-hop.
Enfin, la Zulu Nation t'empêche pas d'être hip-hop de 36 façons, quoi, tu vois. Mais c'était très théorique, tout ça, parce qu'après, ils ont édité des règles, tout ça, on n'avait rien à foutre, nous, en vérité, quoi, tu vois.
Ça s'appliquait surtout à la jeunesse nord-américaine, ghettos, et puis
machin. Après, ils avaient des représentants, tu sais, dans les différents pays. Dynasty l'a été, d'ailleurs, je crois.
Oui, mais après, c'est devenu un truc, c'est devenu presque une secte, et ça m'a gavé, quoi, tu vois. Mais il y a plein de gens aussi, dès le début, qu'on avait un peu rien à foutre. Mais si tu veux, c'est pas ça, c'est parce que les figures du prout du hip-hop, à une époque, il y a une personne qui a vraiment aussi porté ça, qui a fait le fanzine, c'était Candy, Queen Candy, qui a fait son fanzine qui s'appelait Zulu Letters, qui était un peu le seul organe de presse qu'il y avait dans le mouvement. Donc tout ça contribuait, tu vois, à l'aura de la Zulu Nation là-dessus, mais c'était pas un truc qu'on prenait au pied de la lettre, parce que sinon, t'écoutais, fallait pas trop aller dans le métro, fallait pas, tu vois. Mais au bout d'un moment, on s'est détaché de ça, mais on a gardé le côté positif, tout ça. Mais pour en revenir au côté social, alors très vite, de la même façon que c'est la jeunesse des ghettos, ici c'est la jeunesse de banlieue principalement, mais principalement. Mais je veux démystifier un truc aussi, cette histoire du rap qui doit être social, politique, pas du tout. Au début, tout le rap, c'est que de l'ego trip et de l'entertainment. C'est le MC, c'est le mec qui anime la soirée. C'est quand on reçoit Grandmaster Flash, le message dans la gueule, qu'on se dit, ah ouais, le rap, c'est ça, on pense tout de suite que c'est ça. Mais en vérité, c'est moi, je suis tombé sur une interview de Melly Mel, qui est le rappeur principal des Furious Five. Et t'expliquer que, déjà, c'est le seul qui rappe dessus parce qu'aucun autre des Furious Five ne voulait le rapper. C'est un mec qui s'appelait Duke Booty qui leur a ramené le morceau tout écrit, tout fait. C'était un grand producteur de ces époques-là. Et ça les gonflait de faire du social. Sauf qu'après, ça a été un tube planétaire. Ils ont vu l'échec de la SACEM, enfin de la SCAP tomber. Ils ont dit, ah, c'est mortel. Après, ils ont enchaîné avec White Line, qui était un morceau soi-disant anti-drogue, alors que pas du tout. Ils étaient tous sous cocaïne. Et c'était une hymne à la cocaïne, en vérité, White Line. Et Minimel dit, quand je l'écris, j'avais qu'une idée, c'est de le faire écouter à mon dealer au Fever, qui était la boîte où tout le monde allait. Et c'est la maison de disque avec Sylvia Robinson qui a rajouté les Don't Do It, tu sais, dans le refrain, pour que ça passe en radio.
Tu sais ce qu'on va faire? Parce qu'on a évoqué depuis le début plusieurs morceaux. Je le mets rapidement, Rapper's Delight, que tout le monde connaît ça, mais juste pour recontextualiser quand même, quel est le premier truc que tout le monde se prend en France.
C'est la SketchUp,
Non, c'est dur. Ok, tout le monde connaît ça. J'avance un petit peu.
C'est la SketchUp.
Ok, bon, on passe rapidement là-dessus. Premier gros tube. Ensuite, tu dis, soit c'est Curtis Blow qui t'a. Tu commençais à t'intéresser sérieusement au truc, quoi.
Ouais.
T'as un morceau de Curtis Blow que t'aimes bien?
The Breaks.
Bon, classique.
The Breaks.
La petite guitare funk là. The Breaks.
C'est un truc.
Bon, très clairement, c'est la première star, disons, du rap américain, Curtis Blow. Qui en fait touche un public mainstream, quoi.
Pas que,
bien sûr.
Mais ça parlait quand même.
C'est le premier truc qui sort du cadre.
C'est ça, tu vois. Et ensuite, là, on évoquait, j'ai perdu le fil.
Grandmaster Flash, The Message.
Et évidemment, ça, on passe rapidement dessus, mais quand même pour illustrer The Message, ça donne ça.
C'est pas Ice Cube, quoi.
Ouais. Ça pourrait. Même pour Ice Cube, les gens n'ont pas la ref.
Même celle-là, elle est trop vieille comme ref.
C'est ça. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Allez, ça va rapper.
broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice.
T'as déjà vu des photos de Méli-Mel aujourd'hui ou ces dernières années?
Ouais.
Il est tout bodybuildé, tout est trop bizarre.
Ouais, ouais. Alors il y a une autre morceau que j'aimerais bien que tu passes vite fait, ouais. C'est le Planet Rock de Soul Sonic Force. Et allez, je vais t'expliquer pourquoi après.
Allez, on s'écoute ça. Et tout. Ça vient de gauche, ça vient de droite, tu sais plus où donner la tête. Pourquoi tu vas écouter ça? Tu vas écouter
ce titre alors?
Parce qu'au début du hip-hop, il n'y a pas que le rap, il y a une autre musique qui est aussi prédominante parce que c'est la musique des Smurfers, c'est ça, c'est l'électro-hip-hop. Mm-hmm. Et pendant de longues années, enfin les 5 premières années, ça se vaut, c'est-à-dire il y a autant de rap que d'électro-hip-hop. Et tu as des stars de l'électro, donc les Soul Sonic Force, les Planet Patrol, Johnson Crew.
J'adore Man Parish.
Ouais, exactement,
Man Parish. Mantronix.
Mantronix, c'est encore un peu après, c'est une transition entre l'électro-hip-hop et le boom-bap, si on veut, quoi. Mais donc tout ça, et c'est vraiment là. Et côté West Coast, t'as Egyptian Lover, DJ Unknown qui a produit les premiers ST. Donc t'as tout Uncle Jam, tous les LA Dream Team, et t'as aussi à Miami. Et c'est d'abord, c'est un peu cette musique qui donne la Miami Bass après. Ouais. Donc c'est une musique très, très importante qui a disparu après. Mais à l'époque, au début, c'est la musique des Smurfers par excellence. Quoi. Mmh.
Mais c'est intéressant que tu en parles parce que ça fait le lien avec la musique électronique, déjà de manière générale, parce qu'en fait, ils étaient tous influencés par Kraftwerk, ces mecs-là. C'est Kraftwerk qui a aussi influencé après tout le reste, toute la musique électronique.
Sur Sonic Force, ils disent que pour eux, la définition, c'est la rencontre de Kraftwerk et James Brown. Ouais. Et puis derrière tout ça, il y a Arthur Baker. Et Arthur Baker, c'est un producteur très important. Okay. Bah, tu feras tes recherches sur Arthur Baker. Il a produit plein de trucs de ouf, Arthur Baker.
Ok. Mais, et puis il y a un truc que j'aime bien qui clairement s'est perdu ensuite, c'est qu'à ce moment-là, le hip-hop c'était vu comme la musique du futur. On souhaitait faire la musique du futur.
Ah, l'électro-hip-hop c'était vraiment le funk du futur.
Bah, on l'entend, de toute façon, au niveau des sonorités et tout, t'as l'impression d'être dans un flipper, tu vois. Donc...
puis toutes leurs références, c'est des trucs à l'espace, aux extraterrestres, enfin, voilà quoi.
Un peu P-Funk sur
De toute façon, complètement, ouais.
Pour revenir à.
Attends, il y a White Line qu'on doit écouter.
Ah oui, tu as raison. Tu as raison.
Le morceau qui est contre la drogue, mais qui vous dit d'en prendre en fait.
Et Grandmaster Flash.
Bass.
C'est vrai que là c'est de la pub, hein.
A very strange reaction. The more I see, the more I do. Baby.
Ça c'est repris 50 milliards de fois.
Ah. J'entends le Don't Do It. Parce que le pendant on n'entend pas. Hein,
ça vient après, hein, c'est dans le refrain.
Avant ça. Ils veulent pas qu'on entende le Don't Do It.
Ils veulent que t'en prennes.
En plus, bon, tant pis, on l'entendra pas. En plus, c'est entre parenthèses le Don't Do It.
Voilà. Ouais.
C'est si vous voulez, quoi.
Voilà. C'est conseillé, mais c'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire. C'est marrant, c'est un truc, parce que t'as évoqué Bruce Lee. Je me suis toujours posé deux questions par rapport à comment le hip-hop a pris en France. Pas son importation, entre guillemets, parce qu'il y a un historique qui est pas forcément d'ailleurs lié au quartier, en fait. Comment vraiment ça débarque au début, mais ensuite c'est vraiment réapproprié par contre par les gens des quartiers en France, des quartiers populaires. C'est, je pense qu'il y avait un terreau fertile à deux niveaux. Enfin, un, je suis pas certain, l'autre, j'en suis certain. C'est la question sociale, est-ce que les Français ont été plus, tu vois, sensibles, parce qu'il y a un historique peut-être politique en France, différent dans d'autres pays, à justement cette part sociale du hip-hop? Ça, je me suis toujours posé cette question déjà, je sais pas ce que t'en penses.
Alors, il y a deux questions, c'est-à-dire pourquoi ça a autant pris ici et le côté social.
Ouais.
Le côté social, je pense, parce que je te dis, les premiers disques de rap qu'on a reçus, c'est ça, avec cette mythologie que tu devais raconter la vie des ghettos. Mais toute l'historique du rap américain avant, c'est pas du tout ça. Quoi.
Mais tu penses pas qu'il y avait un truc qui disait que ça pouvait bien coller ?
Le terrain ici, moi je peux dire ce qu'on a vu, quand on a la première fois qu'on a vu, c'est que pour la première fois déjà, c'est une musique. Avant, les musiques qu'on écoutait, on était juste spectateurs, consommateurs. Là, c'est un truc où tu pouvais être acteur. Déjà ça. Quand on regarde le premier truc à la télé avec les Rocksteady, bon, c'est des portoricains, on sait pas spécialement ce que c'est un portoricain. On dirait des rebeux. Tu vois, peut-être des rebeux, ils sont survêtes comme nous, tu vois. Et donc, il y a un truc, on peut s'identifier. Tu dis, bon, c'est la musique des Noirs et des Latinos du ghetto. Ici, c'est les Noirs et les Arabes de cité. Je caricature, c'est parce que c'est pas que ça, mais c'est un peu ça.
Bah, tu vois, c'était ma deuxième hypothèse. Elle, par contre, j'y crois vraiment. Les gens des quartiers issus des différentes diasporas, des différentes immigrations en France, sont souvent reconnus dans le combat des Afro-Américains et des Latinos.
Oui, c'est toujours le...
Et c'est, dans les quartiers, Mohamed Ali, c'était quelque chose. Ouais. Bruce Lee, c'était quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est des gens en fait, issus de la diversité qui ont dû s'imposer, y compris parfois par la force, pour dire « on est là, acceptez-nous ». Et c'était des icônes absolues. Et je pense qu'il y avait ce terreau effectivement nécessaire et qui a fait que ça a bien pris ici aussi. Quoi.
Alors, il y a effectivement ça. Et il y a deux choses aussi, c'est que déjà, nous, on écoutait déjà de la musique noire, on écoutait de la funk, de la soul, donc on avait déjà un terrain favorable pour ça. Et puis quand tu regardes, ça se passe au début des années 80, donc c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est l'ouverture des radios libres, c'est tout le côté Black Blamber, SOS Racisme, tout ça, qui, maintenant on sait que c'était une carotte, mais à l'époque, ça fait tout un contexte qui fait que ça rend aussi ça... tu vois, tout tombe à peu près au même moment, et c'est assez concordant quelque part. Quoi.
Est-ce que... Tu te prends les différentes disciplines du hip-hop de la même manière? Est-ce que dès le début, tu sens qu'il y a un truc spécifique avec le rap? T'imagines que, parce que c'est le cas aujourd'hui, on va pas se le cacher, que ça va être la discipline qui va rester, qui va bouffer tout le reste?
Est-ce qu'on peut déjà rappeler quelles sont les disciplines
du hip-hop? Mais je t'en prie,
Daz. Ah bah j'en sais rien. Non, DJing, MC...
Ils en comptent je sais pas combien, parce qu'ils comptent le knowledge, en fait.
Ouais, non, mais là, c'est le
graffiti. Le graffiti, la danse, le rap, et puis le DJing, en gros. Mais si tu veux, au début, quand tu regardes les différentes étapes dont on a parlé, la discipline star au début, c'est la danse, c'est pas le rap. Après, quand tout se casse la gueule, c'est le tag et le graffiti qui font tout repartir. Tu vois, c'est-à-dire les médias qui avaient oublié les smurfers après Sydney, ils les redécouvrent quand Paris est bombardé de tags et qu'il y a le terrain vague et tout ça, et puis ils se rendent compte, intelligents comme ils sont, que c'est les mêmes en fait. Ouais. Et puis après, ils découvrent le rap avec le Dinassa et tout ça, et ils se rendent compte que c'est les mêmes qui taguaient, les mêmes qui dansaient en 83. Mais... Donc il y a une évolution comme ça. Maintenant, la musique, c'est logique parce que c'est la plus diffusable.
Ouais.
Diffusable et vendable dans l'histoire, quoi, tu vois, donc c'est un peu logique. Et puis l'industrie du disque, c'est une industrie énorme. Si on parle quand même des années 80, 90, c'était l'époque vraiment des maisons de disques. Et puis très tôt aussi, quand tu regardes Kujer en MC, ça devient des stars, c'est-à-dire c'est des mecs qui deviennent 10 de platine, tu vois, c'est plus le rap du début où c'est 500 000 ventes, ce qui est déjà beaucoup, mais là vraiment t'as vraiment des stars du rap. Et à l'époque, faut voir ce que c'est l'industrie du disque, je parle de avant le streaming, avant Napster, avant tout ça, c'est une usine Afrique, pas possible quoi, tu vois, c'est l'une des industries les plus lucratives au monde.
Au dépend des artistes souvent, mais bon.
Ouais, peut-être, mais comme toujours.
Ce qui est certain, c'est qu'à cette époque-là, le contrat un peu historique, le contrat d'artiste était la norme, et que les gens touchaient assez peu d'argent, effectivement.
Il y avait des avances, énormément. Voilà,
et puis tu sais, il y a un switch qui est vraiment très important, et je voyais, c'était Rick James qui en parlait dans une interview. Il y a MTV qui arrive. MTV, à part Jackson et Prince, les seuls noirs qui passent, c'est les rappeurs. C'est-à-dire, ça veut dire aussi toutes les stars de la soul et de la funk qui, quand même, à l'époque, remplissaient des stades, ont pas le droit à MTV. À part Prince et Jackson.
Ouais.
Et Whitney Houston, après, ou je ne sais pas. Des trucs beaucoup plus mainstream, à part ça. Mais toutes les stars de la funk, les Rick James, ceux de Solar Records, les Sean Hammer et compagnie, ils passent pas sur MTV, pas vraiment.
Bon, c'était sulfureux, Rick James, quand même.
Ah, plus que Prince.
Ça, c'est vrai, c'est pas faux.
Dans l'absolu.
Ouais, Prince, il avait pas de casier. Hein.
Non, et puis Rick James. Ouais, non, en fait, dans la musique.
Ça, c'est arrivé après, ces histoires de crack et tout ça. Ça, c'est arrivé après.
Dans la musique, il y avait quand même un truc sexuel, les deux, c'est vrai.
Oui.
Bah, de toute façon, c'est ce que Rick James a toujours dit, que Prince lui a tout volé, quoi, tu vois. Mais pour revenir, donc il y a un vrai switch, c'est-à-dire que le rap passe sur MTV. Mm. Run DMC, tout ça passe sur MTV. Et après, ça donnera MTV Rap, quoi, tu vois. Ouais. Donc il y a eu un boulevard qui s'est ouvert pour le rap.
Audacité, parce que c'est marrant, parce que Daz, on a parlé du fameux terrain vague. Daz a dit La Chapelle, moi j'ai dit Stalingrad. J'ai jamais compris.
C'est entre les deux.
C'est entre les deux, c'est pour ça, parce qu'on utilise les deux termes.
Ouais, théoriquement, c'est le terrain vague de La Chapelle.
Ouais. Parce que moi j'ai souvent entendu Stalingrad, tu vois, je dis en général
Stalingrad. La Chapelle,
bon, peu importe. Mais c'était un lieu important, c'est marrant. Rétrospective, avec le recul aujourd'hui, de se dire que... Parce qu'on est dans une époque quand même où les lieux sont un peu moins forts, on consomme beaucoup plus à la maison, où on vit les choses beaucoup plus via les réseaux aussi, etc. Sans jugement moral ou quoi que ce soit, mais juste le fait qu'un lieu puisse incarner à ce point un poids de ralliement important pour l'émergence d'une culture, ça nous paraît un peu étonnant aujourd'hui presque.
Dans l'esprit hip-hop, ça a toujours été ça. Parce qu'après La Chapelle, t'avais Châtelet. Tu vois, tu te retrouvais à Châtelet, ça breakait dans le Forum des Halles, machin. Enfin, il y a toujours eu des endroits de rencontres, en fait. Ouais, et des fois, ça pouvait partir en couille aussi, mais...
Souvent. Mais c'est part d'une époque où c'est vraiment un noyau dur. Donc, tu vois, les gens se concentrent. Mais attention, moi, je vais relativiser aussi. Le terrain, j'ai dû y aller 3 fois. Le Globo, j'ai dû y aller 4-5 fois. Et encore, je sais même pas. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont passées là. Il y a eu des gens importants qui étaient là. Maintenant, c'est pas, y a toute cette mythologie, genre c'était pas au terrain, c'était pas machin. T'as plein de gens qui étaient des passionnés de ouf, qui habitaient très loin, qui venaient pas au terrain. Ouais. Ce qu'elle me disait Candy, je te dis qu'il faisait son fanzine, elle me dit, moi je suis une meuf, je vais pas aller au terrain, je vais pas aller grimper le mur, aller au terrain. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était important aussi à son époque.
Parce que ça, on le voit dans la série justement, Le Monde de Demain sur NTM, sur l'histoire d'NTM, où le terrain vague, il fallait monter au-dessus d'un mur pour aller.
Oui, et puis tu faisais pas toujours spécialement les bonnes rencontres. Hein, tu vois. Moi j'ai jamais eu de soucis, mais il y en a qui ont eu des mauvais souvenirs là-bas. Quoi, tu
ça dépouillait.
Moi aussi,
la dépouille.
À la vie, quoi.
Là, on avance un petit peu dans le temps. Alors, même si on voit dans ce qui va t'arriver dans le futur, cette idée de parler un peu plus de société tout en restant dans l'esprit hip-hop. La musique, elle est souvent au début de l'émergence d'un mouvement culturel de jeunes. Souvent avec la SAP, d'ailleurs. Ça va souvent de pair. La musique et la SAP, c'est un truc ultra important. Ouais. Et puis, souvent avec le temps, parce que ça fédère des gens qui peuvent provenir, pourquoi pas, d'un même milieu social, par exemple, des choses comme ça, un esprit se dégage, au-delà de seulement la musique, les fêtes et la sape.
Ouais.
T'as vécu aussi ce truc un peu, à un moment, d'une forme de conscientisation en France de ce qui se passe, et il faut créer quelque chose ensemble, au-delà, tu vois, du modèle Zulu Nation américain, etc., mais tu vois, une forme de conscience, qu'est-ce qui se passe en France?
Alors, je dirais que bizarrement, enfin, moi, j'ai jamais trop ressenti ça en France. Jamais. Alors, il y avait un mouvement où tous les gens étaient dans le truc, mais même dans ce mouvement, t'avais des divergences, t'avais des trucs. J'ai jamais ressenti un truc de vraiment, on va se réunir. Les autres, dommage que l'unité n'était de notre côté. Mais bon, ça n'a jamais été vraiment ça, quoi. Tu vois, ouais. C'était quand même un truc d'ego et d'individu.
Dans les années 90, on faisait même au plus fort, du coup, de la carrière de NTM, mais l'émergence de la secte Abdoulaye qui est devenue le secteur A, donc ministère Hammer, etc. T'avais même un truc où le ministère Hammer disait clairement, on n'est pas des Zoulous, nous on vient pas avec des baggies, on met des jeans cartonnés.
C'est vrai, c'est faux, ça, c'est de la posture, parce que tu regardes tous les mecs qui étaient là avant, même les Kenzie, Boubou, c'était des mecs qui étaient vraiment hip-hop à fond. Stomy, c'était un breaker, il était dans les Actual Force, tu vois, il a tagué, il était hip-hop, voilà.
Mais du coup,
après, mecs, de ce côté-là, nous, on est plus des mecs de cité, machin, mais ce qui veut rien dire. Joe, il a grandi en cité aussi, moi aussi. Pratiquement tous les mecs de Saint-Denis, on a tous grandi en cité aussi, quoi, tu vois. Mais à l'époque, on venait de cité, mais venir de cité, ça voulait pas spécialement dire Kaira, comme aujourd'hui, quoi, tu vois.
C'était juste milieu populaire, mais.
Exactement, quoi, tu vois.
Parce que
c'est ce qui me dérange un peu aujourd'hui, d'ailleurs.
Mais
Y a des mecs qui sont pas dans le cliché de. Il y a plein de gens qui promeuvent, tu vois, une autre façon d'être un mec de quartier, justement, qui considèrent que c'est une forme de discrimination, de cliché terrible, que de dire, vas-y tout de suite, tu vois, t'es une carrière.
Le problème, c'est que.
Je pense qu'on a dépassé comme ce truc, non?
Bah, pas tant que ça, parce que moi, quand tu regardes.
Oui, mais c'est. Non, le rap. Du rap, il y a plein de mecs qui font pas du rap de test, mais qui viennent de test, tu vois.
Non, moi, je parle de. Non. C'est au-delà du rap, je pense, pour moi, ce qu'est l'imagerie d'un banlieusard aujourd'hui. Moi, à mon époque, tu avais des mecs de banlieue qui venaient tous de mes cités, qui avaient des points de vue, des trucs très différents. C'était pas homogène comme.
En fait, on a tendance depuis Paris à penser que la banlieue, c'est.
Le rap qui a contribué, le cinéma aussi, parce que tu regardes le cinéma sur la banlieue, systématiquement, le héros, c'est une Kaira. C'est un Kaira nain, un Kaira meuf, une Kaira. C'est une comédie ou machin. Depuis La Haine, c'est que ça, pratiquement, quoi, tu vois. La représentation du mec de cité au cinéma, ou par les médias, pratiquement tout le temps, c'est une Kaira.
Ouais. Il n'y a pas le banlieusard qui a grandi en pavillon, tu vois.
Comme ouais, à peu près, ça, c'est encore autre chose. Mais moi, je parle même pour les mecs qui ont grandi en cité. Ouais. C'est pas spécialement, ouais. Tu vois.
Après, t'as un autre cliché que tu peux retrouver au cinéma, qui est au contraire, tu sais, le type. Mais justement, c'est tout aussi discriminant. Le type qui, lui, est un peu différent dans son milieu, puis qui rencontre quelqu'un souvent de l'extérieur, d'ailleurs, qui va lui permettre de s'élever.
Oui, bah, évidemment.
Le professeur qui va le révéler.
Le white saviorisme de la petite couronne. Allez.
Il y a ça aussi, ouais. Mais moi, c'est vrai que c'est un peu ça qui me dérange.
Depuis le départ, Mouloud voulait faire de l'opéra. Il savait pas lui-même. Ok, ouais, d'accord.
Il voulait faire du rap, il fera du violon.
Ouais, ça, c'est mais phénoménal. Ce qui est marrant, c'est que y a aussi un truc, c'est que pour que la culture se diffuse, il faut qu'il y ait ces héros, tu vois, au sens messager. Mm-hmm. Et en fait, bah, il fallait avoir des mecs qui étaient capables d'avoir les fonds suffisants pour justement faire la navette entre Paris et New York, parce qu'à l'époque, aller à New York,
mais
c'était...
Alors, tu peux poser la question à Charles, parce que si je dis pas de bêtises, toi, toutes
les années... On n'est pas dans les premiers à y avoir été.
Mais tu faisais quasiment tous les ans l'anniversaire de la Zulu Nation à New York.
Mais nous, c'est... Attends, je vais expliquer. Ouais. Je rebondis sur ce que je disais sur mec de City. Moi, par exemple, j'ai grandi avec plein de mecs de City qui écoutaient pas le rap, qui aimaient pas le rap, par exemple, tu vois. Oui, des mecs qui étaient dans la fin, qui regardaient le rap comme un truc de clown. Ouais. Même des mecs qui écoutaient du autre chose, quoi, tu vois.
Du Renault, des trucs de Loubar. Bah,
Renault, tout le monde a écouté Renault. Ouais. Renault, c'était vraiment.
Et le seul qui nous parlait. Le rock a été important au moment de la
il y a des mecs qui ont écouté du rock aussi, quoi, tu vois. Donc, c'était pas aussi.
Oui,
tu vois,
pas aussi monolithique.
Pour revenir au voyage à New York, non, nous, on est. La première fois qu'on a été, c'est en 89, tu vois. Donc, on est entre 82 et 89, il y a des gens qui allaient déjà, parce qu'effectivement, ils avaient les moyens.
Parce que même le gens qui étaient à New York. Le fait d'avoir. Souvent, le schéma, c'était le DJ, il a le matos, et le MC, lui, il a juste besoin de talent, et souvent c'est lui qui vient des milieux.
C'est pour ça qu'on dit qu'en général, le DJ c'est le blanc et il habite en pavillon.
Voilà, c'est ça. Sauf pour Assassin, où là c'était l'inverse, puisque Rockin' Squat, lui, était bien né, si on peut dire.
Ouais, ouais.
Bon, c'était le fils de.
Oui, bah, lui, il faisait partie des premiers qu'elle a à New York, parce que je crois qu'il habitait même à New York, au lycée français à New York. Bon, c'est une autre.
Après, quelqu'un
comme
Kenaton, si je dis pas de bêtises, va assez tôt aussi.
Oui, il y va assez tôt, mais lui, parce que pareil, il avait de la famille, d'après ce que j'ai compris, il avait de la famille italo, machin, à Brooklyn, quoi. Donc voilà, ils allaient chez Bando, parce que Bando, il habitait à New York aussi, quoi, tu vois. Donc, mais nous, on n'avait pas ces connexions-là du tout. Donc, quand Azibis organisait, c'était vraiment un voyage organisé à plusieurs, avec des tarifs de groupe, avec les hôtels miteux, des trucs, pas dans des lofts ou des appartements avec vue sur Central Park. Nous, voilà. À l'hôtel Carter, t'avais des dealers dans l'hôtel, des travestis. Tu montais des fois à l'ascenseur, t'avais des travestis à qui manquaient des dents et des machins. Mais en même temps, moi, c'est des bons souvenirs.
Maintenant.
Non, mais en plus, à l'époque, New York, 89, c'était une ville dangereuse.
Ouais, c'était.
89, Times Square, c'était un cobourge. C'était pas le Times Square d'aujourd'hui où t'as la boutique Disney. Hein. T'avais que des salles de jeux, des cinémas porno. Et la gare routière, c'était glauque. Tout était. C'était un autre New York.
C'est pas sur Times Square, mais il y a une super série, The Deuce.
C'est Times Square. Oui, parce que c'était le quartier du porno. C'était le Pigalle de New York.
De ton idole.
David Simon.
Bien sûr. Excellente série, justement, sur la gentrification, entre guillemets, de
New York. Il y a plein de gens qui regrettent ce qu'ils appellent le Old New York, comme ça, où c'était vraiment. Mais c'était chaud quand même. Ouais.
Toujours dans l'optique là d'avancer un peu au niveau temporel, quand Get Busy renaît sous forme de magazine, cette fois plus de fanzine, tu le dis, et donc on retrouve beaucoup de ces interviews dans le bouquin, on vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette anthologie, tu t'intéresses donc à plein de gens différents, des sportifs, des politiques, des machins, etc. Mais quand même, il y a l'idée d'avoir un esprit hip-hop. Alors qu'est-ce que c'est à ce moment-là tu vois, on parle plus de musique. On parle plus de rap, mais on est quand même hip-hop dans notre façon de questionner les gens. C'est quoi?
Bah, c'est un peu abstrait, en vérité. Tu peux dire ce que tu mets, ce que tu veux là-dedans, quoi, tu vois. Mais nous, on s'est dit, nous, on est hip-hop. On peut aller partout, sur tous les sujets. Avec notre vécu.
Mais c'est quoi être hip-hop? Enfin, dans quelle mesure ça va se retrouver quand tu questionnes la personne?
C'est dans le ton, je pense, le ton employé.
Bah, c'est plus d'où on vient par rapport à ce qu'on a vécu. Le fait qu'on n'est pas plus con que d'autres gens qui ont le monopole de ce genre de sujet. Et on se dit, on n'a pas à être limité à parler que de rap, quoi.
Ouais, mais du coup, non.
Et pareil dans les sujets de société, parce que tu regardes la presse rap, ils ont essayé de faire les sujets de société. Alors, c'était un truc sur Jordan, quand ils parlaient de sport, quand ils parlaient de politique, ils allaient interviewer le MIB, ils ont tous fait le MIB, tu vois. Bon, voilà, c'est très bien, mais bon.
C'est quoi le MIB?
C'était le mouvement d'intégration des banlieues, c'est un mouvement militant de banlieue qui luttait contre la double peine, contre. Ce genre de choses, bref, les lois Jox et compagnie, bref. très bien, mais il y a pas que ça, quoi. Tu vois, on peut pas se limiter. Ça, c'était très convenu en vérité, quand tu vois, ça restait, ça allait pas, ça sortait pas tellement du cadre en vérité. Et nous, on veut d'aller partout. Nous, tu vois, on n'avait pas de limite. Et hip-hop, dans un sens, c'est ça, c'est que le hip-hop, t'as pas de limite, c'est pas non plus.
Pas que ouais, si, tu que comme si tu comme refuses ça, la case dans laquelle
exactement ouais on voulait pas être confiné dans un truc. C'est une phrase que je sors souvent sur le rap. Je dis, nous le hip hop ça nous a sorti de les cages d'escalier, et je trouve qu'aujourd'hui beaucoup le rap de tête, ça nous y ramène et ça nous y confine. Et nous à la base c'était pas pour ça, c'était pour sortir de la cité, quoi.
Après il faut jamais mettre de côté. J'essaye aussi de tu vois, d'équilibrer les débats, parce que il faudra avoir quelqu'un qui ait une autre vision, pourquoi pas, mais c'est aussi un truc classique, tu sais, un phénomène sociologique qu'on observe souvent, de retourner le stigmate, de l'embrasser, d'avoir aussi de la fierté et de la reconnaissance,
de s'approprier,
en s'appropriant aussi du cliché.
On en a mangé ça aussi,
parce qu'on
a revendiqué notre ville, au machin, voilà. Là aujourd'hui revendiquer un code postal pour une cité de merde, ça vaut rien. Tu vois. Mais effectivement, t'as ce truc-là, quand t'as rien, tu t'accroches à ce truc-là, de territoire et tout ça.
Oui, et puis surtout, ce caractère qui fait si que tu veux dominer, d'en faire quelque chose de positif, tu vois, même si ça fait chier les autres.
Bah, c'était ça aussi. Quelque part, on venait de là, mais on pouvait être, entre guillemets, aussi intelligent que n'importe quel autre.
Sans avoir eu la formation classique.
Exactement, mais pour moi ça veut rien dire. C'est les gens, je vois des gens qui se gargarisent d'avoir la carte de presse, mais la carte de presse ça veut rien dire. Ça veut pas dire que t'es un bon journaliste, ça veut pas dire que t'es un journaliste intègre. Ouais. Ça veut juste dire que une certaine partie de tes revenus proviennent du journalisme et ça te suffit à avoir un abattement fiscal. Ça veut rien dire d'autre. Tu vois,
c'est pas un titre honorifique.
Oui,
quoi.
Voilà, t'as plein de journalistes qui ont les cartes de presse, qui sont des crétins finis ou des qui écrivent ce qu'on leur demande d'écrire. Pour moi, ça veut rien dire, ça. C'est la question qu'on se posait sur nos émissions. C'est parce qu'au début, c'est quand on arrivait à Click, je saute. Hein.
Bien sûr.
Ils nous proposaient qui pourrait avoir invité un tel. Ils me proposaient que des vieux. Et je dis, donc on va être le magazine des vieux qui fait tous les vieux chez vous. Tu vois, et après, Anthony, chez moi, il me dit, ouais, mais c'est vous les plus légitimes chez nous pour le faire. Je dis, bon, ok, on va faire ça. Alors que moi, je voulais me sortir de ça déjà, tu vois.
Big up à Anthony, d'ailleurs.
Ouais. Mais big up Anthony. Et je me dis, mais c'est vrai, les jeunes, ils vont jamais regarder ce qu'on fait. Et je pense que le public qu'on a, ils ont quand même plutôt entre 35 et 45. Ceci dit, il y a peut-être des jeunes que ça intéresse. Et de la même façon que nous, quand je te dis, on écoutait de la funk et tout ça, mais c'est le rap qui nous a rendu beaucoup plus pointu grâce au sample, qui nous a fait revenir à des trucs beaucoup plus anciens des années 70. Donc on a découvert la musique qui était antérieure à nous et qu'on a kiffé de ouf. Alors peut-être que, je sais pas, mais le rap, alors c'est peut-être le débat qu'on avait l'autre fois au téléphone sur l'intemporalité du rap. Ça, c'est des musiques qui sont figées dans le temps, la soul et la funk.
Alors, tu sais
que le rap, non.
Alors, rentrons dans cette partie. Oh. Là, en plus, avec ta phrase, j'assume de dire ça maintenant, vieillir avec le hip-hop.
À la base, on s'était mis d'accord en antenne sur mûrir.
Mûrir, ouais.
Mais finalement, vieillir.
Allons-y direct.
Alors, c'est marrant parce qu'il y a un mec qui avait mis un commentaire, j'ai l'enculé, mais ça m'a fait rigoler, par rapport aux émissions qu'on faisait sur Click. Et il disait, cher, c'est le Pascal Sevran du rap.
Peut-être.
Ben, c'est ça. Hein.
La chance aux chansons.
Pascal Sevran, 2-7-2-7.
Attends, qu'est-ce qu'on va recevoir?
Et tu sais que cette phase-là, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas la rêve de Pascal Sevran.
Mais c'est normal.
Là, ils croient que c'est Pascal Sevran.
Pascal Sevran.
C'est vrai, c'est possible. C'est l'animateur qui parle de rap, Pascal Sevran. Tu sais, je me demandais là, pour rentrer un peu dans cette idée, parce qu'en gros, on va dire qu'on a commencé à l'évoquer, que le hip-hop n'existe plus dans sa forme originelle aujourd'hui, en tout cas d'une manière différente, qu'il est plus revendiqué de la même manière, etc. Est-ce que tu penses que, derrière l'étiquette rap, est-ce que le rap a pris d'une certaine manière la relève du hip-hop? C'est-à-dire que, sans évidemment le côté multidisciplinaire, mais le côté... c'est un mouvement culturel en tant que tel, le rap, aujourd'hui. Le hip-hop, à la base, c'était le mouvement culturel, le rap une discipline. Est-ce que le rap n'est pas un mouvement culturel aujourd'hui?
Oui, non, je pense que juste qu'il a supplanté le hip-hop, juste parce que le rap a pris tellement d'importance qu'il a. C'est le blob, il a absorbé tous les autres.
Ça, je veux bien, avec les questions économiques derrière, etc. Maintenant, tu l'as dit, mais.
Quand on parle de mouvement culturel strictement lié au rap, bah, quelque part, c'est peut-être là qu'il y a encore finalement cette filiation que tu évoquais avec le hip-hop, parce que ça reste quand même ça, quoi, tu vois. Parce que sinon, en soi, c'est que de la musique, quoi, tu vois. Et tu tires
la musique, c'est jamais que de la musique, tu le sais bien.
Ouais, mais dans ce cas-là, dès que tu veux mettre autre chose dans le rap, tu reviens au hip-hop.
Tu penses?
Directement, ça... inconsciemment.
Ça, je suis assez d'accord quand t'es dans l'analyse. Mais je pense, c'est pour ça que je trouve ça.
Dès que tu veux mettre un truc culturel, bah, ça ramène au hip-hop. Si tu restes que sur la musique, ça reste du rap.
Je pense en tout cas que d'un point de vue sémantique, entre guillemets, il n'y a plus besoin de le préciser. Je pense que quand on analyse fondamentalement, l'esprit est là, effectivement. Mais que le rap en tant que tel est devenu une culture large.
Une culture de quoi, du coup?
Typiquement, tu parlais d'une. Si ce n'est d'une vision du monde, d'un état d'esprit hip-hop, je pense qu'aujourd'hui on pourrait dire que c'est l'état d'esprit rap. C'est de dire.
Ouais, mais justement, regarde, c'est quoi l'état d'esprit entre, je ne sais pas.
Bah, c'est de dire là d'où on vient et dire on n'est pas plus con que les autres. Par exemple, ça tu l'évoquais. Je pense que dans le rap, tu le retrouves encore ça aujourd'hui. Et que ça fait partie du rap, tu vois. Non.
Moi, je. Enfin.
Des fois, il y en a. J'ai l'impression qu'ils sont là pour dire qu'ils sont plus con que les autres.
Bah ouais. Revendique quoi. Tu vois. En vrai, tu l'as pas. Tu l'as pas tant que ça.
C'est ultra multiple. Le rap. Non, mais on comprend pas que les. Bah,
justement,
top hits,
c'est, aujourd'hui, c'est tellement varié. C'est tellement. Quand je te dis, moi, déjà, dans le milieu, il y a des gens avec qui je n'ai jamais eu d'affinité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens dans le rap qui sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Alors, c'est quoi leur tronc commun? C'est quoi leur revendication commune?
Non, c'est juste qu'ils se mettent d'accord sur un style musical, mais c'est tout.
Tu penses qu'il n'y a que l'esthétique?
Ouais, bah ouais.
Qu'est-ce qu'il dit en oral sale avec un PNL, avec un morsaille ou avec.
Ah ouais, t'es allé loin là, quoi. Ouais,
tout ça, c'est du rap si tu veux aller par là.
Ouais, alors il faut quand même. Bah,
j'exagère en disant morsaille, mais t'as compris.
Est-ce qu'il y a des points communs?
Un oral sale et PNL ou.
Est-ce qu'il y a des points communs culturels peut-être qu'on peut les trouver? Je sais pas, il faudrait y réfléchir.
Bah, à part qu'ils rappent tous les trois.
Par la forme, l'esthétique.
Ils rappent tous les trois font du rap.
Moi, je trouve ça cool justement de pas se limiter et de se dire que justement, Orelsan, aujourd'hui, on l'entend, il n'y a pas de problème, alors qu'à un moment donné, on se serait dit, c'est qui ce mec-là? Il n'a pas de vécu, il n'a pas machin, ouais, il n'a pas de légitimité, tu vois.
Mais ça, justement, tu sais quoi? C'est bien que tu dis ça parce que.
Au contraire, moi, je trouve qu'il a un vécu, mais c'est.
Mais c'est exactement ce que j'allais dire.
Mais un vécu au sens. Street.
Donc, on en revient à ce truc-là, c'est-à-dire le cliché du bon lézard, c'est-à-dire un bon lézard, c'est forcément un mec de Sistine Kaira. Ouais. Bah non.
Oui, mais
moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais la France a mis du temps à l'entendre.
Est-ce que le rap, d'une certaine manière, le truc commun entre Morsaille, Orelsan, machin, etc., et PNL, c'est pas de dire je parle de mon vécu? Ouais. Et que ça, c'est pas dans toutes les musiques qu'on le fait de cette manière, avec une forme directe, authentique. Ça, c'est vrai.
Début des années 90, si t'étais pas un mec de banlieue, de quartier, tu rappais pas.
Ça, je suis d'accord. Mais ça s'est ouvert. Et est-ce que ça peut pas être un tronc commun parmi toutes les formes de rap, de parler de manière subjective à la première personne, ce qui se fait pas dans toutes les musiques? Alors, il y a pu y avoir aussi de la fiction, etc., dans le rap à une époque, plus Conté, Opéra Puccino et compagnie, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, il y a quand même ce tronc commun, je pense, qui les habite tous, même si ça prend plein de formes extrêmement différentes. Qui est de dire, voilà mon histoire, voilà mes galères, voilà la simplicité de ma vie aussi, et la simplicité de ma vie mérite d'être racontée.
Non, mais déjà,
quand même.
ce côté vois, par exemple. Autobiographique, à la base, le rap ne forçait personne à raconter ce qu'il avait vécu. Ça, c'est une des façons de raconter, de faire des morceaux qui a pris le pas sur toutes les autres, mais à la base, un mec comme Nas, il racontait ce qui se passait dans son quartier sans jamais dire que lui avait fait les trucs. Et en France, quand ça arrivait, tout le monde s'est pris pour un gangster. Tout le monde disait j'ai fait ceci, j'ai fait cela.
C'était
machin.
The Wire avant l'heure, Nas.
Bah, ouais, en fait, Nas, c'était vraiment le ghetto journaliste, en fait, tu vois. Et c'est comme ça que c'était présenté, que sa musique était présentée. Et après, bah, tu vois, pourtant, Queens, il y a Mobb Deep qui est arrivé derrière. Eux, tout de suite, ils étaient beaucoup plus. Alors que c'est des petits. Tu vois, les mecs à 14 ans, ils faisaient l'école de théâtre de je sais pas quoi, tu vois. Mais quand ils rappaient, c'était on est des Kaira, on est des bandits, on est des machins.
Je sais pas si t'avais vu, il y avait une espèce de mini-documentaire sur Tragédie Kadhafi.
Donc aussi un rappeur du Queens, ouais.
Et t'as une bonne femme qui dit, mais en fait, tout ce que Nas raconte, c'est la vie de Tragédie. Parce que lui, il a tout vécu, tout ça, lui, vraiment, quoi, tu vois.
Tragédie, Big Noid, tous ces mecs-là, en fait, Nas, lui, c'était un peu un spectateur.
Ouais, mais c'est lui qui est le plus le talent pour raconter ça.
Bah, bien sûr.
Alors, c'est marrant, parce que moi, je dis toujours souvent, en fait, pour comprendre le rap, pour être dedans, pour en parler, vaut mieux être dehors.
Ouais.
Et tu vois. C'est vrai. Mais après, pour moi, il y a toujours.
Pour écrire du rap aussi, alors, c'est ce que tu dis.
Peut-être. Il y a toujours eu un débat sur l'authenticité, mais l'authenticité, c'est toi-même. Orelsan, il est authentique dans ce qu'il raconte. Alors qu'il y en a d'autres qui sont des mythos.
Bah ouais, tu vois. C'est ça, en fait.
Et toi-même, si t'es une Kaira, bah, raconte-moi des trucs de Kaira. Si t'es pas une Kaira, me raconte pas des trucs de Kaira. Tu vois.
Ou alors, raconte-le
en disant que tu racontes la vie d'un autre.
Mais voilà, mais en fait, à un moment donné, l'authenticité passait par. Enfin, ce qu'on appelait le vécu.
Ouais.
C'était avoir vu des flingues.
Moi, c'est ça qu'à un moment. Baston, tu sais, quand je me suis commencé à m'intéresser, à avoir envie de parler moins de rap, parce que je sentais qu'on allait vers ça. Et je te dis, ce truc-là, pour nous, c'est un appel d'air pour sortir de la cité, et qu'aujourd'hui, tout ce que j'écoutais me ramenait à la cité. Et ça, j'ai senti venir, et à l'âge que j'avais à ce moment-là, ça m'intéressait déjà plus, quoi.
En fait, c'est pour ça que, tu vois, je parle souvent d'un collectif qu'on a en France qui est la Mafia Quinfri, en disant que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est une bénédiction parce que ça a permis de créer le rap français au sens où on entend, c'est-à-dire des mecs qui essayent pas de singer les codes américains. C'est-à-dire les mecs se prennent pas pour des New-Yorkais, même s'ils ont été, tu vois, ils se sont butés à Mobb Deep, etc. Mais ils racontent des histoires de quartier bien de chez nous, machin, etc., sans essayer de parler de Brooklyn ou de trucs qu'ils connaissent pas. Mais d'un autre côté, ils ont enfermé le rap dans une imagerie de rap de Tess
qui pour moi l'a empêché de d'évoluer pendant pas mal de temps.
Il y a le switch déjà des clips de rap français avec Pour ceux.
Ouais,
à partir du clip de Pour ceux, ça y est, tu regardes le reste des clips de rap français à un moment, c'était ça. Genre, si t'avais pas des bécanes de cross dans la cité,
des flingues
et des pits, c'était pas ça, quoi, tu vois.
Après, hypothèse, peut-être aussi. Parce que la musique, elle est à l'image de la société. Et je pense que beaucoup de rappeurs d'aujourd'hui sont aussi le produit d'une désillusion. C'est-à-dire que peut-être qu'à une époque,
vous
avez cru qu'il était possible de s'émanciper du quartier.
Ça, c'est
et
vrai.
Qu'aujourd'hui, on se heurte à une dure réalité qui est en fait, ça marche pas.
Alors, quand quand je te parle des débuts des années 80, l'arrivée de la gauche, tout ça, il y avait beaucoup d'utopie encore. Beaucoup d'espoir de changer. Ce que je dis toujours, à un moment, on pensait paraître prétentieux, mais c'est surtout très naïf, sauver la banlieue, et arriver après, on pensait qu'une chose, c'est sauver de la banlieue. Tu comprends? Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est plus dur, parce que ce qui est arrivé aussi très dur dans les années 90, c'est vraiment l'explosion du trafic de drogue, quoi, tu vois. Début des années 80, ça existait, mais c'était très... très limité, quoi, tu vois. Moi, j'ai grandi au Franc-Moisin, qui était la plus grande cité de Saint-Denis. À l'époque, 82, 83, pour aller acheter du shit, on allait à la Courneuve, au 4000, ou on allait au Fort d'Aubervilliers. Après, il y a eu un dealer dans la cité, après, il y a eu un dealer par bâtiment, après, il y a eu un dealer par 10 dealers par cage d'escalier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, l'arrivée vraiment, plutôt fin 80, vraiment 90 de l'argent illicite, ça a changé beaucoup de choses. Donc il y a ça, effectivement, c'est toujours le problème du rap, c'est-à-dire entre l'œuf et la poule, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que le rap influence la société? Est-ce que le rap est influencé par la société? C'est un peu des deux, finalement. Ouais. Parce que c'est pareil, ce que ça te renvoie aussi entre le rap, le cinéma, c'est que ça renforce aussi cette imagerie-là, quoi, tu vois.
C'est vrai, après je pense que...
En même temps, effectivement, la réalité des banlieues s'est vachement dégradée en 30 ans.
Bon, de toute façon, c'est un débat qui, j'ai envie de dire, presque nous dépasse aussi.
Je sais pas si ça s'est dégradé ou si juste ça a stagné, tu vois.
Ça revient à se dégrader au fil du temps aussi, quoi, tu vois.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu regardes un film comme La Haine, qui est un film, je le rappelle, parce que beaucoup de gens ont voulu le prendre comme un documentaire, mais je veux dire...
Ça a été un peu vendu comme ça aussi.
Ouais, le noir et blanc, ouais. C'est vrai que, au niveau de la narration, etc., Kassovitz a fait un truc qui était un film de banlieue, mais ça reste un film. Mais... Le constat de social qu'il y a dans ce film qui date de 95, il n'a pas changé, on est en 2023, tu vois. Donc, je ne sais pas si ça s'est dégradé, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on parle des petits qui se plantent au couteau dans des rixes, dans des machins.
Moi, je t'explique, à l'époque des années 80, tu n'avais pas des mecs qui se tiraient dessus à la Kalachnikov, je te dis.
Alors, vraiment, ouais, mais alors là on est sur un autre truc.
L'argent illicite, ça a changé plein de choses, parce que maintenant, c'est des grosses sommes, c'est une économie qui est super importante. Ça a changé les rapports sociaux dans la cité aussi.
Mais là, on est dans le grand banditisme, sur les trucs à la Kalach.
Non, c'est pas que le grand banditisme. Le grand banditisme, c'est au-dessus, ouais, d'accord. Mais toute la déclinaison, c'est sur le trafic, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est des grosses sommes qui sont en jeu, c'est des terrains à défendre, c'est pas du tout les mêmes rapports, hein. ça a changé beaucoup de choses réellement, ouais. Ça a changé beaucoup de choses.
Oui. En tout cas, pour revenir à l'aspect culturel, je parlais de désillusion, tu étais d'accord, et je pense que dans un cadre comme celui-là, la fierté, la revendication de la situation et se réapproprier le stigmate, comme je le disais, etc., ça a d'autant plus, c'est d'autant plus fort, tu vois, sur le moment, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre comme alternative. Tout ça avec plein de guillemets dans le sens où on le rappelait depuis le début, le rap, il est protéiforme, il y a plein de façons, plein de gens de différents milieux.
Non, mais d'un point de vue social, moi je dis toujours, j'aurais pas aimé être adolescent aujourd'hui, quoi, tu vois. Là où j'ai grandi, j'aurais pas... je te dis, à l'époque, il y avait encore une diversité, beaucoup d'utopie, encore des espoirs, de l'espoir.
Il y avait moins de fatalisme, peut-être, ouais.
Ouais, mais...
c'est toujours faire attention. Moi, j'avoue que sur ce genre de débat, j'ai besoin de lire des sociologues, des choses comme ça, etc. Ouais. Parce que, typiquement, toi, ton regard, il est aussi celui d'une personne de ton âge aujourd'hui, tu vois.
C'est sûr,
se mettre dans la tête de ces gosses, c'est compliqué, tu vois.
Bien sûr. Ouais. Non, mais moi, je leur jette pas la pierre. Hein. C'est pas eux, c'est
peut-être qu'ils ont de l'espoir, d'ailleurs.
C'est des victimes j'espère.
Non, mais après, il faut pas oublier aussi que le rap, c'est toujours adressé à un public. Et que le public est friand aussi. En fait, le rap donne au public ce que le public veut entendre. Mmh. Et de la même manière que le gangsta rap aux États-Unis, en fait, était majoritairement écouté par des petits blancs des suburbs chez eux, qui sont les banlieues cossues.
Ah ouais, tu penses ça?
Ah bah oui, ah bah 100%. Les rappeurs, alors ok, N.W.A. machin, quand ils sont sortis, ils parlaient aux mecs de South Central, de Compton, de tout ça, mais... Une fois qu'on a eu The Chronic, Doggy Style et qu'il y a eu la vague du rap
après,
West Coast.
C'est un autre débat qui rentre aussi.
C'est-à-dire,
tu dis le public mange ce qu'on lui donne, mais c'est qui décide de ce qu'on lui donne?
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a.
C'est-à-dire, c'est quoi les canaux de diffusion? Qui c'est qui choisit les morceaux que tu vas écouter à la radio?
Il y a une propension, une volonté du public de s'encanailler.
c'est-à-dire d'avoir l'impression d'en être en écoutant de la musique, ça, mais pour tous les styles musicaux, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois un clip de PNL qui
pas,
est...
Pas trop pour Céline Dion, quand même.
Ah, tu rigoles ou quoi? Grosse canaille. René, attends. Non, mais tu vois l'imagerie, par exemple. Non,
tout comme on est fasciné par les Affranchis et les productions de Scorsese.
Ben, c'est ça. Mais en fait, tu vois, tu prends l'imagerie de PNL, les mecs, ils te font des clips, c'est des courts-métrages, tu vois. Donc, les gars qui font l'image de PNL, ils ont des skills cinématographiques, ils pourraient faire autre chose, mais t'as toujours la chaise pliante, t'as toujours la boîte aux lettres, c'est le mur avec les boîtes aux lettres, la porte du bâtiment, parce qu'en fait ils savent très bien que les gens qui écoutent ça, majoritairement des jeunes, veulent entendre des histoires de mecs qui bicravent le spleen du bicraveur, ils veulent entendre des histoires de hall d'entrée, de portes magnétiques,
Alors tu vois, ce que je trouve intéressant, t'as évoqué le spleen, effectivement c'est une des particularités de PNL, et en fait c'est un peu à l'instar de, on parlait de Scorsese, beaucoup de gens n'ont pas compris Scarface, parce que dans ces films, en fait, à chaque fois, même si évidemment qu'ils jouent sur la fascination pour le bandit, il y a souvent une morale quand même qui se dégage.
Attends, mais Scarface, c'est de Palma, non ?
Oui, c'est de Palma, bien sûr. Ouais. Non, mais je le prenais parce que c'est dans la culture, notamment rap hip-hop, ça a été un truc iconique. Mais souvent, en imaginant le personnage d'Al Pacino comme quelque chose, tu vois, d'enviable, alors que le film te montre tout le temps que c'est pas enviable, il me semble.
Oui, mais en fait, dans la façon de montrer la violence crue, etc., il y a des gens qui comprennent pas le message.
Oui, et puis il y a quand même un truc qui peut parler aux gens, mais c'est pour ça que ça nous fascine aussi, c'est que le mec, il débarque d'une situation compliquée, il se fait tout seul, etc. Donc ça aussi, évidemment, que c'est un aspect.
Mais c'est pour ça qu'en contrepoint de Scarface, faut regarder L'Impasse.
Que j'aime beaucoup.
Il est très très bien. Moi, ce que je trouve mieux que ça.
Mais ça, en fait, dans tous les films de gangsters, tu vois bien, ça finit jamais bien.
Bah oui.
C'est ce que Kerry James disait aussi, c'est le cimetière ou la prison.
Ouais, la mort ou la prison.
Ouais. La mort ou la prison. Ou alors l'HP aussi. Entre... Ouais. Mais en même temps, si t'as rien, bah, même la vie qu'il a eue, même si elle a fini comme ça, t'en rêves.
Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, par rapport au spleen de PNL, c'est juste, tu vois, cette idée. Que ça brouille un peu, pas l'aspect moral, mais de dire l'aspect émotionnel de tout ça, tu sais, et qui d'une certaine manière atténue quand même le côté c'est génial d'être dealer.
En fait, voilà,
c'est pas ça. Mais c'est
celui qui était à fond là-dedans, quand tu regardes, c'est Kerry, c'est en été qu'il y a toujours une espèce de truc, je fais ça, mais j'ai honte, tu vois. Il y a,
ouais, mais c'est
toujours cette dualité chez Kerry, par exemple.
En fait, Kerry ou même Roth, il y avait les contradictions d'un homme, tu vois.
C'est-à-dire que les mecs. Qui étaient assumés et exposés.
Ouais, alors je sais pas si. Alors. Pour Kerry James,
tu regardes pour une poignée de dollars, un nuage de fumée, tout ça. Il y a ce truc-là.
Non, mais idéalgie, sans problème.
Après, bon, Kerry, c'est encore un cas à part.
Voilà. Mais... Par contre, après idéalgie, qui pour moi était vraiment le haut du panier, t'as eu tous leurs potes du quartier qui sont venus et ils avaient peut-être pas le même recul sur ce qu'ils faisaient.
Et quand tu regardes idéalgie, justement, ils sont à la croisée de deux générations.
Ouais, Idéal Junior. Ouais.
Ils sont à cheval sur deux générations, donc ils sont un peu entre les deux, quoi.
Mais le truc, c'est que pour moi, PNL, donc il y avait Kerry James, mais qui était plus dans. On nous force à faire cela, mais nous on veut pas, ok ?
Ouais.
PNL, ils l'incarnent. Eux, ils disent clairement, je descends de chez moi et je suis obligé de vendre. Mais franchement, ma vie, elle pue la merde. Tu vois, c'est vraiment, c'est parce que Kerry il se plaçait un peu comme Nas, tu vois, en observateur du quartier et des comportements, etc. Alors que PNL, vraiment, ils ont, je trouve que leur force. Alors après, on aime ou pas l'esthétique musicale, mais en tout cas, ce que je trouve qui est important et qui est intéressant de voir, c'est que ils démystifient complètement le rôle du dealer de shit, qui normalement est toujours dépeint comme un mec qui claque son argent en soirée, qui conduit des voitures de loc, des grosses berlines et tout. Et eux disent, bah non, en fait, on bicrave. On gagne rien en vendant.
Et puis de toute façon, quand tu regardes qu'est-ce que c'est que le business illicite, c'est l'ultra-capitalisme sauvage.
Ouais, mais carrément.
Donc c'est comme dans la vie, t'as les grands banquiers, t'as les trucs, et puis en bas de l'échelle, t'as les trucs qui sont très maltraités, comme n'importe quel employé smicard ou machin, même s'ils gagnent un peu plus, mais je veux dire, dans les rapports sociaux, les rapports humains, t'es en bas de l'échelle.
Ouais, et justement, les mecs ne le glorifient pas. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en ne le glorifiant pas, ça devient glorieux.
Le problème, c'est que n'importe quel mec en bas de l'échelle, il rêve de la vie de celui qui est au-dessus, quoi, tu vois, mais bon.
Pour revenir à des terre à terre, moins politique.
On refait la France.
Oui, et encore une fois, bon, c'est des discussions, on est dans le flot de la discussion, c'est des questions qui ont besoin d'être réfléchies, idéalement de s'appuyer sur des gens qui ont travaillé sur les sujets, etc. J'aime bien toujours rappeler ça.
Toujours,
non, mais c'est important.
Là, c'est important.
Parce que quand on veut être pertinent sur un sujet, c'est bien de s'enseigner avec des gens qui ont travaillé sur le sujet.
Mais qu'est-ce qui dit que leur travail est pertinent ? T'en sais rien.
Le cadre universitaire... Peut-être sérieux. Il y a quelques gens qui.
Il y a quand même des fraudes.
Ça arrive. Il y a quelques. C'est pas la norme, honnêtement.
Ok. Ouais,
universitaire, à ma connaissance.
Très bien.
Et très scolaire.
Pas que je l'ai beaucoup fréquenté, mais je connais un petit peu.
Alors qu'on passe notre temps à dire que justement, les cartes de journaliste, tout ça, c'est de la merde.
Ah, c'est pas la même chose, une carte de journaliste. Non,
après,
et
les mecs ont vraiment fait des études, tout ça. Mais après, je me méfie des statistiques aussi. Hein, tu vois. Statistiques, c'est abstrait aussi.
Le sociologue ne travaille pas, ou l'anthropologue ne travaille pas qu'avec des statistiques.
Ouais, c'est bien. Ok.
Tu sais, dans la continuité de ce qu'on racontait, mais avec l'aspect moins politique, je sais, tu l'as déjà dit, qu'à un moment, tu t'es mis à quasiment plus écouter de rap. Et j'ai l'impression, d'une certaine manière, être un peu moins attaché au hip-hop. Ça s'est passé
ouais,
quand,
mais
comment?
Alors ça, c'est aussi pour un truc personnel, parce que j'ai tellement été à fond là-dedans, mais presque comme un mongol, quoi, tu vois, dans le sens où c'est comme une addiction.
C'est obsessionnel.
Ouais. Quand tu vas trop loin dans un truc et que ça commence à te miner moralement, il faut s'en débarrasser un moment, quoi, tu vois. Je prenais ça trop à cœur, mais après, c'est un défaut personnel. Je prends trop les choses et les gens à cœur. Donc, au bout d'un moment, faut.
Non, mais vraie question, est-ce que c'est possible d'avoir une passion qui transcende toutes les étapes de la vie et tous les âges?
Une vraie passion, pour moi, c'est forcément dévorant, c'est forcément un peu annihilant, tu vois. Donc, au bout d'un moment, faut dégager tout ça. Et puis, tout simplement, au bout d'un moment, je te dis, ce qui sortait, la tournure que ça prenait, m'intéressait moins. Et alors c'est la discussion qu'on avait eue avant en préparant ça. Et je pense que le rap c'est aussi fondamentalement une musique des jeunes, même si t'as des gens de différents âges qu'on a écouté et qu'on écoute aujourd'hui. Mais les tendances, c'est toujours la jeunesse qui va les donner, tu vois.
Et alors, les tendances, oui. Mais ça ne veut pas dire, parce que franchement on peut faire le parallèle avec quasiment toutes les grandes musiques populaires en tout cas qui émergent de mouvements de jeunesse, que ce soit la musique électronique, la techno, la house, que ce soit le rock, le métal, etc. C'est des mouvements de jeunesse à la base, et pareil, mais ils ont réussi quand même à se créer.
T'as des métalleux qui ont 50 ans, tu vois.
Et il y a quand même aussi, on arrive à nourrir ces gens, tu vois, qui ont ce besoin peut-être plus mature entre guillemets. Mais et je suis sûr que le rap en est capable aussi.
Alors je trouve que dans le rock, alors on verra, parce qu'on y arrive maintenant. Maintenant qu'on commence à avoir des rappeurs cinquantenaires.
Nas a eu 50 ans, là. Ouais,
voilà. Maintenant, est-ce qu'on va.
Le rap aussi, d'ailleurs.
Le rock est plus indulgent que la vieillesse, je trouve, que le rap. Ouais. Parce que les mecs peuvent aller voir les Rolling Stones comme des vieux grabataires, tu vois, et les gens, ils iront tout le temps. S'ils peuvent remonter, même avec des déambulateurs, les gens, ils feront sale comble, les Rolling Stones.
Tu penses que
IAM ou NTM ne fera pas sale comble, même à 70 ans?
NTM, peut-être, IAM, non. Déjà, IAM, ne fera pas. IAM ne remplira pas des Bercy comme NTM l'a fait. Et pourquoi, je vais dire pourquoi, je pense, parce qu'NTM s'est arrêté à 4 albums. Donc ils sont arrêtés au sommet de leur gloire, entre guillemets.
Avant un peu baissé en qualité.
IAM, ils ont continué à faire des albums. Alors c'est presque à l'honneur d'IAM d'une certaine manière, parce qu'ils ont vraiment fait de la musique, quoi, tu vois, ils ont continué. Mais bon, les albums d'IAM qui sont sortis après, ils sont un peu anecdotiques, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, dans l'inconscient collectif, tu vois ce que je veux dire.
Et aujourd'hui, on revoit en printemps.
C'est pas fou.
Voilà, mais
j'adore IAM, je préfère IAM à NTM d'ailleurs.
Mais IAM aujourd'hui ne pourrait pas remplir Calbercy. Mais parce que aussi NTM, c'est au-delà du rap. C'est autre chose, quoi, tu vois. À la limite, IAM est plus rap que NTM.
Mais attends, la question déjà, c'est est-ce que IAM a rempli Bercy même quand ils étaient à fond?
Je crois qu'à leur époque, il me semble.
Le Vélodrome, Bercy, je suis pas sûr.
Peut-être, mais en tout cas, ils peuvent pas, comme ça, en une heure, claquer 4 Bercy comme NTM.
Oui.
Mais je crois qu'il y a que NTM dans le rap qui peut faire ça en France.
Booba.
Non, maintenant, je crois qu'un Vald le fait, des choses comme ça, etc., des mecs actuels.
Ils peuvent en claquer 4 comme ça d'un coup, on n'est rien sorti depuis 20 ans.
Oui,
c'est autre chose, bien sûr.
Voilà, tu vois. Donc, ça, c'est autre chose. Mais donc, je pense que le rap, c'est quand même la jeunesse qui donne les tendances d'aujourd'hui, le truc.
Et, c'est le Stade de France, ça, que très très peu de gens peuvent faire dans le rap, ça, c'est sûr.
Mais NTM aurait pu le faire. Je pense que si tu fais 4 Bercy, tu peux faire un Stade de France.
Ouais. Après, c'est le RERD et le RERB. C'est compliqué quand même, ça fait chier.
Mais donc, je pense que c'est ça. C'est pour ça que le rap évolue toujours. Alors après, on peut faire comme tout à l'heure, pleurer sur ce qu'il est devenu ou ce qu'il n'est plus, ou ci ou ça. Mais ça ne l'empêchera pas d'avancer, il s'en fout, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que moi, je suis plus revenu. Alors déjà, je pense que on revient toujours à la musique de sa jeunesse. J'en suis persuadé. Mmh. La musique qu'on a, quand on a vraiment découvert la musique, on s'y est intéressé. Et moi, je suis plus revenu, même si elle m'a jamais quitté, vers la funk et la soul, parce que voilà, elles ont une date d'arrêt entre guillemets, sur les années 70, 80.
Ça bouge plus. Hein.
Elles sont figées et voilà. Donc il n'y a pas eu de nouveau soul machin qui m'a permis d'être déçu de la tournure que ça prenait.
Bah, pourtant, il y a eu un mouvement new soul.
Ouais,
mais enfin, néo soul, bien sûr.
Ouais,
il y a eu l'époque d'Angelo, etc. Et même aujourd'hui, il y a un truc, tu sais, qu'on estampille plus volontiers R&B aujourd'hui, mais qui en fait, tu vois, une nouvelle soul.
Non, mais il y a des trucs que j'aime bien. Moi, j'adore Gilles Scott, tout ça. mais je mets pas J. Scott sur le même plan que Gladys Knight.
Les Isley Brothers ou
Gladys Knight.
Ou Gladys Knight, ouais.
Tu vois, okay. Ouais, mais j'aime bien J. Scott, mais pour moi, c'est pas la même chose, c'est pas au même niveau, quoi.
Question. Ouais. Pour comprendre.
Pour moi, même dans le rap, j'ai tous les mecs que j'ai pu adorer dans le rap, mais il n'y en a aucun que je mets à la hauteur de James Brown, Prince ou Curtis Mayfield.
Ah ouais.
Aucun. Pour moi, c'est mon point de vue.
Tu sais quoi, je vais le rejoindre. Non, mais pas.
DJ Quick Prince, non, les gars, largement.
En fait, pas. Non. Oh, non. Oh, non. Oh, DJ Quick Prince, non, c'est pas possible. Je ne peux pas entendre ça.
Homme orchestre.
C'est toujours marrant, c'est on veut toujours trouver des nouveaux. Alors, un mec qui m'avait sorti.
Producteur
que,
de génie.
Un mec m'a sorti que Miguel, c'était le nouveau Prince. Et j'avais envie de le frapper. Tu vois.
Et même, là, par contre, j'irai pas là-dessus.
Et même Amy Winehouse, on disait que c'était la nouvelle Billie Holiday. Ouais. Non, Billie Holiday, c'est Billie Holiday.
En fait, ce qui. Il faut partir du principe déjà que ça n'a aucun sens de hiérarchiser en vérité.
Je suis d'accord avec toi.
Évidemment. C'est la musique. C'est comme d'ailleurs dans les genres musicaux, dans les trucs. Est-ce que c'est de la musique plus ou moins savante, entre guillemets, est-ce qu'elle est plus compliquée à faire ou pas, etc. Et en fait, il y a des musiques adaptées à des moments. Il y a des moments où t'as envie d'écouter un truc où le mec s'est cassé le cul, où le mec a dû étudier 20 ans avant de pouvoir sortir cette musique, sinon il a pas été capable. Puis t'as envie d'un truc où t'as trois accords de guitare ou juste un rappeur et ils l'ont fait en deux minutes à 16 ans et c'est génial. Donc, enfin, tu vois, j'ai pas envie de les hiérarchiser en disant il y en a un qui mérite. Voilà. Mais je suis d'accord quand même que quand tu regardes sur...
Non mais t'as des génies dans leur...
Sur l'impact culturel que ça a eu, etc. Et moi, personnellement, ça me touche plus. Oui, je suis pas sûr que je peux mettre un rappeur et qui va avoir un Prince.
Bah moi, tu vois, juste un Kanye West. Quel que soit ce qu'on pense de sa dérive, de le mec est malade, on
là,
le sait.
C'est là qu'on parle de génération. Moi, je suis un mec de 50 ans qui a écouté ces musiques-là aussi. Donc, maintenant, un mec d'aujourd'hui... Dr. Dre, c'est le Roy Ayers de son époque.
Non, mais tu vois, c'est ça qui est important à noter, c'est que pour beaucoup de gens qui ont grandi avec ça, Dr. Dre est un génie. Moi, qui me suis buté à Dr. Dre, à aucun putain de moment, je le positionne en génie. Le mec a du flair, le mec est très doué, mais c'est pas un génie. Kanye West est un génie, tu vois. Et pourtant, je suis pas d'accord avec ce que fait Kanye West.
Tu regardes tous ces gens-là aussi, c'est un truc aussi dont on parlait dans l'évolution du rap. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de samples dans le rap. Mmh. Et tout ce qu'a fait aussi le truc de la beauté pour moi du rap, c'était les samples. Et comme je te disais, est-ce que des jeunes peuvent s'intéresser à de la musique d'avant ou du rap d'avant, je ne sais pas. Mais nous, ça nous a... Même si on avait une petite culture funk soul, on s'est revenu à plein de trucs, on est vraiment devenu plus pointu.
Pour être juste, il y a beaucoup moins de samples parce que c'est devenu une galère de droit
terrible.
Mais moi, je trouve personnellement, à mon goût personnel, c'est ce qui rend le rap moins intéressant.
Moi, je suis complètement d'accord avec ça.
Moi, je suis qu'à moitié parce que justement, j'adore les producteurs d'aujourd'hui qui travaillent du sample, mais en fait, qu'ils ont écrit eux-mêmes, qu'ils ont joué eux-mêmes, et que je crois qu'il y a un petit retour de plus en plus, et que j'apprécie personnellement de beatmaker, instrumentiste, etc. Et ça a aussi de la valeur.
Je suis pas
monomaniaque. Mais tu vois, ça a de la valeur aussi. J'adore le sample, mais j'adore aussi le fait qu'un beatmaker soit capable de jouer les instruments et de créer son propre sample. D'ailleurs, souvent, il va le traiter ensuite comme un sample. Il va s'enregistrer son truc, après, il va le détériorer, puis le hacher comme un sample qu'il aurait pris, mais c'est lui qui a tout joué. Ouais. Ça, c'est une super démarche, par exemple.
Ouais. Oui, peut-être.
Oui,
ça peut donner des choses.
Mais du coup, ça reste dans l'esthétique du sample. Là, je pense que Cher, lui, il parlait plus
de la cloud,
de la trappe où il y a.
Même à l'oreille, tout simplement. Moi, ce que j'ai découvert, parce que c'est normal, ils ont repris des trucs qui étaient déjà phénoménaux. Et après, justement, comme ça, j'ai découvert à quel point c'était phénoménal, les trucs. Mais on parle de différence aussi. Là, on parle de home studio, de machin. Les mecs jouaient en acoustique avec 15 musiciens dans le studio, quoi, tu vois. Donc, tu peux pas avoir la même sonorité. Ouais. Quand tu vois l'orchestre de Barry White, quand tu vois tout le truc comme ça, forcément, c'est simple, tu vois Barry White quand il passe à la musique électronique avec l'album Change, c'est plus Barry White, quoi, tu vois.
Ça, par contre, tu vois, j'avoue, là, tu veux pas m'aimer, Charles, mais c'est pas grave, j'ai jamais compris Barry White.
Quoi?
Ah non, j'ai jamais compris l'idolâtrie de pour Barry White.
Ouais, mec,
je trouve surcoté de
ouf. Quoi? Ah non, t'as de la chance que j'avais remplacé, je ne peux pas te le fracasser sur la tête.
Alors écoute, parce que Barry White. On va dire qu'il y a à boire et à manger. Il y a des trucs un peu sirupeux, un peu.
En fait, moi, Barry White qui change.
Il y a des trucs de ouf.
Ouais, mais tu parlais de Curtis Mayfield, c'est autre chose, quoi, putain.
Non, détrompe-toi. Il y a des trucs de Barry White. Parce qu'on dit souvent aussi que Barry White, c'était un sous Isaac Hayes. Ce qui est pas bon, pas follow, à cause de la voix, à cause du type d'orchestration. Mais dans Barry White, surtout les productions de Barry White.
Bah oui, c'est ça.
Love Unlimited. Pareil, t'avais son alter ego, Jen Page. Je te fais écouter des sons de lui, tu vas tomber par terre. Si je te disais pas que c'était du Barry White, tu dirais c'est un truc de ouf, quoi, tu vois. Non, Barry White.
Je demande 80
parce qu'on est resté au truc où tu penses que c'est la musique de mariage ou des trucs où
je sais pas. Oui, parce que, effectivement, Barry White, chanteur, moi je préfère Isaac Hayes.
Par contre, Barry White prod.
Mais t'as deux, trois, t'as plusieurs titres instrumentaux.
Allez,
de Barry
quoi,
White.
Vas-y, donne-nous un morceau de Barry White.
Bah, sur le Love Unlimited Orchestra.
Midnight on You. Par exemple. Après, il y en a plein aussi des Love Unlimited qui sont mortels.
Ils sont incroyables.
Et bah, c'est parti, The Love Unlimited Orchestra.
Et attends, Jen Page, faudrait que je te retrouve un Jen
Midnight on You. Vas-y, regarde, on me passe le son.
Midnight. J'ai ce vinyle. Je l'ai volé à mes parents. So nice. Imagine le sample.
Mais comme il sait que c'est Barry White, il va dire que ce sera bien.
Non, je suis ouvert comme garçon.
Sors de ta zone, de ta prison mentale. With midnight and you. Right on, baby. Right on.
Les cordes là, c'est.
Non, mais je trouve ça bien. Déjà, j'avoue que. La voix exagérée dans les graves, elle m'énerve.
Pas
déjà.
Du tout, il parle toujours comme ça, ouais. C'est sa vraie voix. Mais c'est sa vraie voix, bébé. Ah. C'est parce qu'il fume des cigares. Mais bien sûr, arrêtez.
T'sais, il en joue de ouf.
Bah, bien sûr.
Sans la jalousie.
Ouais, ouais, clairement.
Non, après, je trouve ça élégant, là, effectivement.
Ah, voilà.
Non, mais il y a des orchestrations, c'est super. Et Jen Page, tu tapes Jungle Eyes.
Jungle Eyes.
Non, on sort pas du sujet, d'ailleurs.
Jen Page. Le morceau, c'est une usine à sample. Ah, c'est des musiques de Blood Exploitation, quoi, tu vois, c'est.
3400 auditeurs mensuels. Il n'y a pas de justice. Ah bah ouais. Moi je suis d'accord.
Ça aurait pu être composé pour un James Bond, ça.
Oui, comme tous les trucs de Blaxploitation de l'époque en fait.
C'est stylé.
Et lui c'est l'homme de l'ombre de Barry White, c'est son arrangeur, son compositeur. Après il y a toute une variation dans le morceau, ça part.
Je pense que c'est plus James Bond qui a pris les codes de la musique de Blaxploitation que l'inverse d'ailleurs.
Je sais pas, mais ça claque, ça, en tout cas.
Eh ouais, mon gars.
Et t'as plein d'autres trucs de production.
Alors,
Barry White.
Je sais plus quel était le rapport avec le truc. Mais
bon, faut pas qu'il chante, en fait, pour que je l'aime, c'est ça, non?
Oui, en fait, c'est ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi, par contre. Parce que moi, ça me met un peu mal à l'aise.
Ouais, oh, il saoule.
J'ai l'impression qu'il est... Bah oui, il saoule, justement.
Incroyable. Bon, il faut qu'on reprenne le fil de cette émission.
Alors, le rap, est-ce qu'on peut vieillir?
On peut même crever.
Non, mais tu vois, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement, là, il y a tout un foin sur le fait que le hip-hop a 50 ans, que Nas a 50 ans. Là, donc, on a eu la tournée du Wu-Tang avec Nas cet été. On a, tu vois, il y a tout un revival. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça aussi. Mm-hmm. Tu vois, moi, les gens de ma génération, quand on avait 16-17 piges, ils pouvaient se mettre à écouter les Stones, tu vois, alors qu'on n'a pas du tout grandi avec. Là, t'as des petits de 14 piges qui te parlent du Wu-Tang. Moi, je trouve ça cool, tu vois. Mais sans renier ce qui existe aussi, c'est-à-dire que ces petits-là, ils peuvent passer du Wu-Tang, ils peuvent passer du Wu-Tang à Niska sans aucun problème.
Bien raison.
Et je trouve que ça, c'est très très cool.
Ça, c'est fort. Je suis d'accord. Moi, j'aime ce côté-là. De toute façon, c'est du bonus. De toute façon, je pense qu'un jeune, il est fait pour écouter la musique d'aujourd'hui qui sort, fait par ses pairs, par des gens qui lui ressemblent. C'est évident. Je valorise le fait qu'il se plonge dans des trucs plus anciens parce que je trouve qu'il y a toujours de la richesse, etc. Et vas-y, mon gars, tu te rends pas compte. Il y a un univers devant toi. Autant s'en emparer quand t'es curieux. C'est ça.
Puis je veux dire un truc très clair. Moi, on n'aurait pas aimé que nos parents nous disent qu'on avait le droit d'écouter ou pas écouter, ce qu'il fallait écouter ou pas écouter. Dans le rock, c'est pareil. Il y a des anciens pour qui le vrai rock, c'est Bill Haley, Elvis, et puis
tout ce qu'il y a derrière.
C'est
le
rock, c'est des blancs, quoi.
Non, mais même Little Richard, Chuck Berry, tout ça. Les pionniers, vraiment le rockabilly, quoi. Tu vois ce qu'on appelle. Et après, tout le rock des années 70, tout ça, Led Zeppelin, Deep Purple, ça, c'est dégueulasse pour eux, quoi. Tu vois. Mais bon.
Mais il y a des jeunes qui, c'est ça qui est marrant aussi, qui recherche une esthétique hip-hop que plutôt années 90 boom-bap, mais qui ne savent pas en fait comment ça s'appelle. Mm-hmm. Et moi, une fois, tu vois, quand je fais du vélo, je passe avec la musique à fond, Et une
quand
fois,
t'arrêtes, on fait « Hey Daz, je te reconnais !»
Non, je passais sur les quais de Seine. Je passais sur les quais de Seine et donc je ralentis parce que passage flouté, machin. Et là, j'entends des mecs qui devaient avoir quoi, peut-être 22, 23 ans, qui disent « Putain, mais tu vois, c'est ça! C'est ce type de son que je cherche, je sais pas ce que c'est, tu vois. » Et j'étais là, je fais « Ah ouais !» Tu vois. Et je devais écouter, je sais pas, un truc peut-être...
Mais à un moment, il y avait tous les gamins qui s'habillaient, façon Fresh Prince de Bel-Air, les Fuo Kids, là, je sais pas quoi.
Bien sûr.
Qui avaient tout le look, les high top, les tout. Voilà, c'est plus années 90, mais c'était déjà vieux pour ce qui
Mais ce qui est marrant, c'est ça, c'est que ça revient à fond. C'est que la mode aujourd'hui, c'est la mode des années 90, tu vois. Le lifestyle, etc., c'est énormément inspiré des années 90 aussi, tu vois.
Je crois qu'il y a aussi un élément par rapport aux figures marquantes dans le rap. On parlait du rap français, qui sera capable à 60 ans de toujours remplir un stade, machin, etc.
Il n'y en a pas 36. Hein.
Ça, c'est certain. Ouais. Mais en français, j'ai même envie, en fait, d'étendre le sujet à la musique de manière générale et au produit, entre guillemets, culturel, c'est qu'il va falloir assumer, enfin, hypothèse, je veux pas dire, moi je pense ça, mais après vous pouvez me contredire, que...
Je ne suis pas d'accord.
Non, mais en fait, le flot de communication est tellement important aujourd'hui, le flux d'informations, etc. Les publics tellement segmentés que, évidemment, et peut-être pour le mieux, je sais pas, tu n'auras plus jamais de figure majeure,
oui,
marquante,
t'auras plus de Michael Jackson.
Comme les Beatles, les Stones, les Michael Jackson, etc. Ça n'existera plus parce que tu n'auras plus une figure martelée par les quelques médias qui existent à ce moment-là, que tout le monde écoute,
bah,
etc.
Tu dis,
etc.
Ça, et tu dis ça et t'as Beyoncé qui fait une tournée intergalactique.
Je pense que ça sera jamais Michael Jackson, Beyoncé.
Bah, en fait, à quoi tu mesures Michael Jackson?
Et en plus...
Au nombre d'évanouissements dans le pays
Non, au fait qu'il y a un culte encore aujourd'hui, combien d'années après sa mort, je sais pas, et combien d'années après Thriller, ça par contre, je sais,
ça,
c'est beaucoup d'années.
Ouais, mais ça, on sait pas, est-ce que les prochaines... ceux qui ont grandi avec Beyoncé, est-ce qu'ils seront encore... dans 30 ans, ça sera toute leur jeunesse, donc ils
ouais, mais les Spice Girls, c'est la jeunesse de plein de gens aussi, et c'est pas
ouais, mais c'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil.
Beyoncé et les Spice Girls,
c'était provoqué.
Mais je mettrais pas Beyoncé au niveau de Michael Jackson. Non plus.
Ben ça, je suis d'accord aussi.
Moi, je trouve que si, quand même, on pourrait.
Le jour où elle sort un album équivalent à Thriller.
Mais non, mais encore une fois, Thriller, tu le mets. En fait, si
même
la
juste
meuf...
off the wall. Même juste off the wall.
Mais si la meuf existe aujourd'hui. Ça, je reconnais bien ton côté funky man. Si la meuf existe aujourd'hui,
ton
c'est
côté
parce que.
Cité.
C'est parce que. En fait, c'est parce
pas
que.
Pas de cité, mais c'est vrai.
Non, mais si Beyoncé est Beyoncé aujourd'hui, Lyonnais, c'est parce que Michael Jackson a fait Off the Wall ou Thriller. Tu vois, c'est comme dire. Je pense que LeBron James, il mangerait Michael Jordan. Mais si LeBron James, c'est parce qu'il y a eu Michael Jordan, donc ça n'a aucun sens de les opposer, tu vois.
Fondamentalement, tu as raison. Non, mais en fait, c'est pas.
Mais par rapport à ce que tu dis, je pense que la dernière figure comme ça du rap français, c'est Booba. Après, il n'y en aura pas d'autre.
Ouais. Déjà parce qu'il fait en sorte d'éteindre toute la concurrence, donc forcément, bon. Mais oui, c'est vrai.
Ouais. Mais franchement, ouais, je crois à ce truc. Il restera des figures marquantes dans la musique et tout. Mais je suis persuadé que l'objet culturel pop ultime qui touche absolument tout le monde, etc.
Taylor Swift.
Mais non, mais même pas. Aux États-Unis, peut-être Taylor Swift. À l'échelle américaine. Dans le monde.
En France, il y en a plein.
Non, mais il y en a plein. Mais c'est...
Des Tayloros, là, je sais pas comment ils s'appellent. Les Swifties ou je sais pas quoi.
Peut-être que l'avenir me donnera tort, mais je crois vraiment qu'il y a eu un switch et une segmentation des publics, très liée à Internet d'ailleurs aussi.
Oui, c'est détruit les canaux de diffusion. Parce qu'avant, quand je te dis, c'est quoi le truc phare, c'était avant YouTube, ça c'était MTV. Donc MTV, c'est.
Ils faisaient des artistes.
MTV a permis que Jackson et Prince soient les superstars qu'ils ont été. En dehors en plus de leur qualité, de leur tout ça, mais c'était de toute façon c'est simple. Tu dis, il y avait ceux qui avaient le droit de passer sur MTV, ceux qui étaient refusés. Et tu vois les différences de carrière entre les uns et les autres, quoi, tu vois. Maintenant c'est autre chose. Maintenant,
même en comparant
entre le streaming, entre tout ce que tu veux, les plateformes, les machins.
Mais même en comparant, Prince n'a pas eu la carrière de Jackson non plus, tu vois.
Ça, je suis d'accord.
C'est marrant parce qu'on a voulu les mettre dos à dos. Alors
oui, parce que ça, à un moment, c'était les deux plus gros vendeurs. C'était deux, mais attention, il y a deux choses. C'est-à-dire, Prince, il a quand même vendu des millions d'albums. C'est l'un des plus grands vendeurs de l'histoire du disque aussi.
Mais moi, à titre personnel, je préfère Prince à Jackson.
Bien sûr, mais par contre, Jackson était une plus grande star populaire que Prince.
Bien sûr.
Mais Prince
King of Pop.
A été plus reconnu
comme un musicien,
comme un génie, justement un héritier de tout ce qu'on citait. Prince, on le met directement dans la filiation de Sly Stone, de Clinton, de James et tout ça.
Tu vois, c'est par exemple.
Et puis lui, il a créé un son à lui. C'est-à-dire, l'autre ça a été Quincy Jones, ça a été La Motown, c'était. Prince, c'est un super interprète. Jackson, c'est un super interprète.
Après, attention.
Ça, un showman, ça c'est pas
Prince.
Mais Prince, il a créé un son, il a créé ce qu'on appelait le Minneapolis Sound, il a créé un univers.
Et puis l'après Motown de Michael Jackson, avec presque des sonorités un peu New Jack, etc. Et il y a quand même aussi une recherche sonore que j'ai trouvée intéressante.
Bah, Prince avait ça aussi.
Mais moi je me suis désintéressé de Prince.
New Power Generation, tout ça.
Ouais, mais là, justement, quand on est passé de The Revolution à New Power Generation, pour moi, le switch, la catastrophe, c'était Batman. À partir de Batman,
c'était de la New Jack, en fait.
C'était de la mauvaise New Jack avec ses mauvais rappeurs à la MC Hammer, là, derrière. C'était atroce. Et comme un mec, il disait, là, c'est sur George Nelson, là, le grand critique, il dit, mais en plus, la dernière chose qu'on attend de Prince, c'est qu'il nous fasse du rap. C'est pas ça qu'on veut, quoi, tu vois.
Et là, je trouve le mec, en fait, sans l'époque, il dit, c'est ça que les gens veulent.
Vraiment, j'avais deux passions complètement dingues, c'était le hip-hop et Prince.
Diamonds and Pearls, quand même.
Franchement, après Batman, j'ai vraiment décroché.
En tout cas,
même musicologie, quand tout le monde a dit « Oh, c'est le retour du Prince !»
Flemme.
Ça vaut pas...
On est dans des discussions enflammées. J'espère que Flav, qui s'occupe du son, a mis un limiteur sur les micros, parce que on rentre dans les micros. Mais c'est parce qu'on aime la musique.
La question, vraiment...
Oui, Michael Jackson ou Prince, alors, au final?
Prince, mais all day, tu vois, sans problème.
Je dirais... Discographie de Michael Jackson, live Prince. Je préférais voir un concert de Prince largement. Je pense que Prince était fondamentalement plus talentueux. La discographie, au final, je pense que je préfère la celle de Michael Jackson.
Alors, un truc bizarre, je veux dire, autant Jackson, parce qu'on en a tellement bouffé que ça me sortait par les yeux. Puis il y avait la guerre Prince-Jackson, moi j'étais toujours Prince. Et puis quand c'était pour Prince, j'avais l'impression que t'étais plus underground, t'avais un truc plus secret à défendre.
T'étais sulfureux.
Voilà, exactement. T'étais pas comme les autres, donc c'était très bien. Mais maintenant, alors tu sais, bizarrement, tu vois, quand il y a eu les obsèques de Michael Jackson, je me suis retrouvé. Alors je le supportais plus, hein, tu vois, tellement bouffé de Thriller, et puis les trucs d'après c'était insupportable.
Dangerous, surtout Dangerous.
Ça reste fou.
Mais j'étais vraiment ému, tu sais pourquoi? C'est quand ils ont repassé toutes les images de Jackson enfant, tu sais, Jackson 5, tout ça, à l'époque où il était encore noir, etc. Et franchement, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi, tu vois. Et maintenant, je réécoute beaucoup de Jackson de cette période d'avant, la période.
Quand il était petit.
Période Jackson, même jusqu'à tant qu'il
soit ado, jusqu'à Off the Wall.
Voilà. Et bizarrement, je réapprécie beaucoup Jackson maintenant.
Mais parce qu'après, en fait, il a quitté la musique afro-américaine pour faire de la musique.
C'est comme tout. C'est comme tout. Quand tu l'entends 25 fois par jour, ça, tu supportes plus.
La prod de Dangerous, ça m'a jamais fait kiffer. Moi, les Black or White avec le riff de guitare électrique, là, moi, c'est pas ma cam, hein, franchement. Alors, ok, le clip, il y avait du morphing, c'était ouf. Tu vois, à l'époque, c'était ouf. Mais franchement, c'était trop blanc. Je sais pas, je m'y retrouvais pas.
Le fameux racisme anti-blanc.
Mais bien sûr, le seul, l'unique.
Ah mais je suis d'accord avec toi.
Mais alors du coup,
ouais.
Est-ce que vas-y. On peut se dire qu'il y a un public au-dessus des 40 ans, au-dessus des 50 ans, qui continue à écouter du rap, tout comme ces putains d'artistes à un moment donné, quand ils avaient fait du rap dans leur jeunesse, ils se mettaient au jazz, tu vois, genre, ou alors au slam, tu vois, Oxmo Puccino qui se met à faire du jazz, mec.
Tu sais que j'aime de plus en plus le jazz.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Tu sais que tu es de plus en plus vieux.
J'ai 35 ans. Mais
l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans la carrière d'un rappeur, pour devenir respectable,
faut qu'il mette un costume et qu'il joue avec des musiciens.
Il fallait qu'il fasse du live jazz, machin.
Pareil, j'ai vu un truc comme ça de Kerry et j'ai trouvé ça ennuyé comme pas possible.
Tu sais quoi? C'est chiant. Parce que ça, on part complètement en brillant ce podcast, mais c'est pas grave. On a été un peu plus structuré au début, maintenant on s'amuse, c'est bientôt la fin. Je trouve que c'est un des rares trucs que je reproche au rap, alors que j'adore ça, c'est qu'il y a toujours eu des lacunes scéniques, notamment en France, et que je trouve...
Là, on part sur autre chose.
Oui, on part sur autre chose, mais parce qu'en fait, tu parlais de jouer avec des live bands, etc., et en fait, c'est pas toujours réussi, mais c'est bien d'essayer de se dire, évidemment, que la dynamique de groupe...
fonctionne.
C'est un truc musicaux,
qui
parle de Kerry
James,
tu vois.
Que Kerry James, sa dynamique de groupe, ils étaient 34 sur scène à l'époque de la Mafia Cafri.
Non, mais c'est pas ça. C'est pour moi, tu sais, ça, ce truc-là, alors c'est vraiment un truc de réac et de puriste, mais pour moi, c'est donner...
c'est justement tu fais de la grande musique alors que
déjà d'une ça, ce truc là qui me
c'est vouloir essayer d'avoir un pass de je suis respectable
Et c'est ça, c'est donner le raison à ceux qui ont toujours critiqué le rap pour ce qu'il est. Donc on va dire on va faire du rap mais comme vous aimez, vous, on va mettre des musiciens et je vais mettre un costume pour avoir l'air plus intelligent, et je déteste ça en vérité. T'as envie d'expérimenter,
quand ça vient du cœur, quand c'est The Roots, ça tue.
Mais c'est The Roots.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire que dès le départ, c'était leur proposition. Mais non, mais The Roots, ils ont un live band, ils font du rap.
Ouais.
Moi, quand je te parle de Oxmo Puccino qui fait l'hypopète bar, j'ai pas de problème avec Oxmo, tu vois.
Parce qu'il veut faire de la variété, pourquoi pas, tu vois.
Mais oui, mais regarde, Nas, il a 50 ans, il sort des albums de peurin, en fait. Faites du rap. On vous demande pas de faire le rap d'il y a 30 ans. Hein.
Moi, je peux comprendre.
Quand tu parles de lacunes scéniques, quand on parlait qu'il pouvait remplir des salles, toute la différence entre IAM et NTM, c'est la scène.
C'est la scène.
C'est la scène.
NTM, j'aime pas, mais sur scène, ils sont imbattables.
Tu peux discuter la discographie pendant longtemps. Je sais qu'ils ont fait des efforts IAM, tout ça, mais avant, à Canada, on avait un balai dans le cul quand même, tu vois. C'était pas sur scène.
Il dansait le Mia, quoi.
Mais il le reconnaît lui-même, hein, tu vois. C'est, c'était pas la même truc. Mais moi, j'aime pas ce truc-là. Après, c'est moi. Après, des fois, ça peut donner des trucs très bien, peut-être, hein, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que c'est donner raison aux gens qui ont.
Oui, c'est.
Ah oui, vous avez raison. Alors, on va faire comme vous voulez. Ouais, tu vois,
en fait, c'est ça. Moi, je te dis le passage obligé, c'était. T'étais rappeur. Devient jazzman, devient slammer, donc tu vois, c'est Abdelmalik, c'est Oxmo, c'est tous ces mecs-là qui, pourtant, quand ils étaient actifs dans leur groupe respectif, donc Abdelmalik dans NAP.
Je vais sortir, Kenzie, il avait sorti une phrase, il avait dit, on leur a dit qu'ils étaient des poètes, et ces cons-là ont fini par y croire. Donc à un moment, ils veulent tous, ils ont tous le syndrome, on leur a dit qu'ils étaient les Brassens et les Jacques Brel d'aujourd'hui, et ils veulent tous se prendre pour Jacques Brel à un moment cyniquement.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois,
c'est vrai.
Parce que pourtant, désolé, Abdelmalik, il singe Jacques Brel, je suis désolé. Comment il s'appelle merde.
Oxmo ?
Non, le Belge.
Ah,
Stromae aussi.
Oui. Oui, mais Stromae, c'était la proposition dès le départ.
Créatif, mais bon, il y a quand même ce truc-là. Tu vois, ça m'en.
Mais tu vois, moi, j'ai
alors, j'entends celui qui va arriver avec une moustache et une guitare qui va nous faire du Brassens pour être respectable. Quoi, tu vois, aussi.
Non, mais j'ai vu, tu vois, j'ai vu Oxmo à Enghien. Et effectivement, il a fait ses trucs de l'hypopète bar, machin. Le moment où il a tué la salle, c'est quand il a fait L'Enfant Seul. Tu vois ? Et le mec est littéralement seul sur scène. Une seule lumière, et en fait, il t'embarque tout le monde. Tu vois.
Je trouve autant à l'époque, il a été sous-coté, Oxmo, aujourd'hui, je le trouve sur-coté.
Je trouve que là, j'ai entendu des trucs de lui où je me suis dit, ah ouais, ça fait plaisir quand même.
Ok, j'ai pas entendu les derniers trucs, mais c'est vrai, tout ce côté-là.
Mais oui, la partie après Cactus de Sibérie, c'était pas ouf.
En tout cas, sur l'aspect live et le fait de jouer avec des live bands, etc., c'est vraiment pas. Enfin,
non, mais ça peut être cool, mais tant que tu continues à faire du rap, en fait.
Ouais, mais il faut dire que franchement, je mets de côté les Américains parce qu'ils ont un truc avec le show naturel, y compris dans le rap. Ça peut tuer, quoi, vraiment. Pas surtout. On parlait de Saul, de funk, etc. Sur scène, ça peut être fou aussi. On a fait un épisode sur George Clinton, c'était fou aussi.
Attends, moi je vais te montrer des Soul Train. Non, des. Ouais, c'était Soul Train le truc.
Je te
montrer du Black Ivory avec leurs petits costumes en dentelle et tout, là, qui font des chorégraphies éclatées, tu vas dire.
Ouais, c'est pas
ouf. Hein.
Mais, juste pour terminer, aux États-Unis, il y a un vrai savoir-faire du spectacle, c'est indéniable.
Attention, quand je parle avec Clinton, je dis, moi j'ai eu l'expérience, et souvent ce que les gens disent, parler à Munn, c'est très inégal. Ça peut être très chiant comme ça peut être fantastique quoi.
Après quand t'as une carrière sur plusieurs décennies,
mais faut aimer les morceaux de 23 minutes,
on pardonne un peu plus
et puis suivant ce que t'as consommé le soir même,
ça c'est vrai que ça joue. mais oui, c'était pour revenir sur ce côté ça doit pas forcément passer par live band, mais c'est pas un mépris vis-à-vis du rap, parce que c'est un reproche que je peux faire à la musique électronique aussi quand elle est pas jouée en club. C'est-à-dire ouais. quand elle est là en club pour danser, il n'y a aucun problème. Si tu es là, tu vas à un concert, entre guillemets, de musique électronique.
Bah ouais.
Moi, j'y vois souvent des limites scéniques, de spectacles, de propositions de musiciens, entre guillemets.
Sauf que, si on parle souvent, la musique électronique, elle est instrumentale.
Oui.
Tandis que le rap, il a un micro, t'as un MC, t'as un mec qui rappe, qui a une présence.
Théorie,
un machin. Donc, c'est pas la même chose.
C'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi.
Ouais.
Mais
après, les gens qui ont vu Daft Punk sur scène, apparemment, ça les a matrixés aussi. Donc,
oui, mais parce qu'ils ont ce savoir-faire de mettre des trucs autour.
Je vais donner un exemple pas simple. Tu vois. Alors, autant,
les aussi,
autant t'avais Public Enemy qui était pareil, bon, comme NTM chez Carré, le groupe de scène c'était Public Enemy, mais bon, ils avaient tout un. Ils avaient leur mec en trier militaire, leur chorégraphe avec Professeur Griff, t'avais un petit peu. Et puis t'avais Flavor Flav, c'était
un showman,
Flavor Flav. Ouais. Mais tu regardes un KRS-One, qui est vraiment l'incarnation du MC tout seul sur scène. Mmh. Le mec, j'ai jamais vu une scène de KRS-One où il retourne pas la salle. Mmh. Il est tout seul avec son micro et son DJ.
Ça, c'est très fort.
Ouais.
Tu vois,
c'est
pas
pour ça que les Américains
pourtant, Big Daddy Kane, il avait les danseurs, il avait Scoob and Squab, il avait tout ça. Autant, ou alors t'as les autres, les Wu-Tang, ou à l'époque, les Ultra, ils sont 4-5 sur scène.
Ouais, bah c'est ça.
Mais KRS-One tout seul, c'est un vrai showman.
Parce que tous mes bons concerts de rap français que j'ai fait, c'est souvent des petits trucs, et c'est parce qu'en fait ils débarquaient à 6 sur scène, 6 MC qu'ils enchaînent, etc., qui sont dans le plaisir, tu passes un moment incroyable, tu vois.
Il y a autre chose, alors je te dis, autant KRS-One, autant Rakim qui est le dieu, mais Rakim c'est un peu chiant sur scène, regardez. Mais pareil, tu me disais les petits trucs, parce que souvent il y a un truc qui joue aussi, c'est la taille de la salle.
Ça, c'est ça, ouais.
Une petite salle, t'es tout de suite dans une autre ambiance. Moi, mes meilleurs souvenirs de concert que j'ai eu,
c'est les petites salles.
C'était Trouble Funk, un groupe de Washington, de Go-Go Music, par la personne. Tu devrais écouter Trouble Funk.
Bah vas-y, on met un extrait. Mais finis ton anecdote.
Ça, c'est la 100% musique de Flipper.
Je les ai vus, la Go-Go Music.
Ouais.
Oh non, t'es ouf.
Non.
Oh, pas du tout, attends, c'est une percussion. C'est...
Vas-y, attends.
Oh, le blasphème.
Donne un morceau, vas-y, donne un morceau.
Let's get small.
Allez, c'est parti.
Je sens que je vais être déçu.
Vrai groupe de scène. Tout est joué, là c'est vraiment un groupe avec des...
Ouais, ok, pardon. C'est pas ça que je voyais en Go-Go Music.
Ouais, Go-Go Music, c'est la musique de Washington.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est marrant parce que tu regardes la Go-Go Music aujourd'hui, elle est super Kyra en fait. Ah, t'es ouf sur scène, percussion, cuivre, tout.
On notera d'ailleurs que le break de batterie au tout début, ça a été repris par Dr. Dre sur Bitches and Shit, le morceau caché de The Chronic.
Et je les ai vus au Rex Club, au New Morning, à l'Élysée Montmartre. Le meilleur concert, c'était au Rex Club. Ouais. Toute petite scène. Où j'ai vu Mantronix aussi, d'ailleurs.
Ah,
Mantronix.
En fait, ouais, c'est très difficile pour un
pareil,
rappeur de faire bouger une grosse salle, quoi.
J'ai vu Dieudonné au Théâtre de la Main d'Or et au Zénith, et c'est vachement mieux au Théâtre de la Main d'Or.
Très bien.
Mais vraiment, bon. En plus.
Bah, certainement.
Et il avait peut-être changé de ton aussi.
C'était à l'époque où il était encore drôle.
Ouais, alors il est resté longtemps drôle.
Oui.
Sur scène.
Oui, c'est ça. C'est ça le problème.
C'est le moment du concert.
Sur scène, ça va. Faut pas l'écouter en interview.
Non, oui. En fait, tu vas dire, j'ai déjà dit dans cette émission que j'ai pas l'âme d'un mec qui censure, etc. Quand après, t'as vraiment cherché la merde, que t'as dit des conneries répétées sur des décennies, peut-être que mon gars faut se taire maintenant et partir, tu vois.
Ouais, ou alors t'acceptes de la branler.
Bon, bref.
Ouais, même à côté de ces conneries, le problème, c'est qu'il faisait quand même des spectacles qui étaient vraiment drôles. Quoi.
Non, mais il avait un talent indéniable.
Moi, je suis allé le voir à la Main d'Or, Dieudonné, mais à l'époque, il n'avait pas encore fait ses dingueries.
Impardonnable aujourd'hui.
Autre temps, autre mœurs.
Il a demandé pardon.
Oui, encore une nouvelle étape.
Oui.
Bref.
D'ailleurs, je l'ai vu encore cette semaine là, et ça a refait parler.
Bon, je l'ai vu dans une interview chez un média belge là.
Aloha.
Ouais, putain, c'est catastrophique.
Moi, j'essaie de pas y regarder en interview parce que ça me donne envie de pleurer. Donc,
non, mais c'est surtout
la déchéance.
En fait, surtout, il... bon, ouais, bref, non, c'est pas le sujet dans cette émission.
Ouais.
Peut-on vieillir dans le stand-up?
Bonne question. Stand-up et rap, c'est pareil finalement.
Bon, Cher, j'avais envie à la base qu'on parle aussi un petit peu de presse, de magazines, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà fait un bon tour, qu'on a bien discuté, qu'on a bien parlé de plein de trucs de musique avant tout, ce qui est pas plus mal.
La presse rap, c'était de la merde.
Y en a-t-il encore une?
Non, y en a plus d'ailleurs.
Ah, là.
Mais je savais qu'elle allait mourir, je me suis juste, j'étais un peu optimiste. Je pensais qu'elle crèverait plus tôt.
C'est quoi l'âge d'or de la presse rap pour toi? C'était fin 90?
Non, 2000.
Enfin, avec les radicales,
90-2000, ouais. 90-2000. Enfin, pour moi, jamais spécialement intéressé, mais à l'époque, ouais, c'était ça. Hammer, dans les années 2000, quoi. Je sais même plus.
Ouais, c'est
la moitié des années 2000, ouais.
Ouais.
Bah, en gros, ouais.
Parce qu'à un moment donné, t'avais peut-être 4-5 magazines.
Mais ceci dit, je
connais rien, je suis passé à côté de cette époque.
Je trouve aussi quand même triste que les gens ne lisent plus. Moi, je suis quand même attaché au papier, malgré tout, quoi, tu vois.
Bah, en vrai, en média rap. Encore pertinent aujourd'hui, aussi bien au niveau des analyses que des interviews, il y a l'ABCDR.
Oui.
Éventuellement.
Bien sûr.
Tu parlais de Yard, toi.
Yard a fait à une époque des choses bien. Et non, après, si on veut, mais alors là, c'en est plus chez les intellos, mais c'est pas spécifiquement rap, chez Audimat, par exemple. Chez Audimat, ils sortent régulièrement des trucs, des articles, etc., y compris sur le rap. Ils ont même sorti
un
bouquin qui s'appelle Trap, qui est une compilation d'articles sur la trap, qui est absolument passionnant, qui est extrêmement riche, qui est intelligent. Donc non, il y a des choses. Après, oui, et c'est pas chez Bouscapé, mais c'est pas ce qu'il souhaite faire non plus, tu vois. Bouscapé, c'est pas ce qu'il revendique, donc pourquoi pas, tu vois.
Oui, mais qu'est-ce qu'il revendique, du coup?
C'est un média mainstream, qui parle des grandes ventes, des artistes qui vont parler sur les réseaux, etc.
Dans la presse, t'avais Rappé, qui était ça, quoi. Ah. C'était le magazine pour les enfants.
Il y avait Erreur aussi.
Après, moi, je suis pas client, mais tu vois, par exemple, je sais pas si on l'a déjà dit dans cette émission, mais je suis content de voir que depuis qu'ils ont changé de rédac chef, il y a quelque temps, c'est un mec qui vient du Bondi Blog et qui vient dans l'idée de traiter des sujets plus sociaux, etc. Et j'ai vu quelques résultats, effectivement. Alors honnêtement, j'ai pas lu les articles.
Il faut lire les commentaires surtout pour voir si le public le reçoit correctement.
En tout cas, il y a cette volonté peut-être d'être autre chose que du pur entertainment. Est-ce qu'ils y arriveront? Je sais pas. Mais oui, après, je suis pas très client quand il parle de musique, c'est vrai. Mais il n'y a pas beaucoup en même temps de presse musicale où je suis client en vrai.
Mais tu sais, quand tu regardes la presse rap, est-ce que c'était le problème que moi j'avais, est-ce que c'était un truc d'analyse, de point de vue? Moi, je remets la presse de point de vue. Ce truc de neutralité, ça m'a toujours fait chier. Moi, j'aimais bien la presse d'opinion. Et c'est, je trouve déjà ce qui me gênait dans la presse rap, c'est qu'ils n'avaient pas d'opinion.
Ils ne voulaient pas se faire casser la gueule.
Exactement, déjà. Mais en fait, c'était surtout des outils promotionnels.
Ouais.
Et aujourd'hui, l'outil promotionnel des artistes, c'est leur propre réseau.
Ouais, c'est vrai.
Ils ont pas réellement besoin de ça, quoi, tu vois.
À part quand t'es quotidien, tu vois, là, ça se renonce, tu vois, là, oui, t'y vas.
Ouais.
Et encore.
Si, je pense que quotidien, encore, ça reste un truc.
Ouais.
Ils sont pas beaucoup à dire non parce que ça va pas leur bénéficier, tu vois, je pense.
Oui, t'as quelques médias télé comme ça, mais on parle des médias spé, quoi, vraiment. Mmh. Aujourd'hui, un artiste, je sais pas, qui a je sais pas combien de followers sur Insta ou sur, sa promo, elle est faite sans eux, quoi, tu vois.
Oui, mais du coup, raison de plus. Ils devraient encore plus se dire, de toute façon, ma promo, elle est OK. Donc je vais laisser les médias rap éventuellement m'écorcher un petit
mais
peu.
Tu sais, regarde, le problème, c'est que je te dis, l'autre fois, je voyais une émission, il parlait de ça, et je me dis, en fait, Internet est censé avoir tout changé, et je crois que les médias rap ont les mêmes problèmes que la presse rap avant. Mmh. C'est-à-dire le public réactionnel, les arrangements avec les labels et les majors, en même temps, la peur de se prendre des coups de pression.
Ouais, la connivence avec les...
Alors à l'époque, c'était des coups de pression, maintenant, ça doit être des vrais coups, des coups de feu, j'en sais rien. Mais donc, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, les rapports ça, et au bout d'un moment, t'as des mecs qui ont foutu des sites, il faut qu'ils les fassent tourner financièrement aussi, donc ils acceptent
le truc
c'est un business comme un autre.
Oui, ouais.
le truc
mais c'est
changé,
pas un truc d'opinion, mais, c'est pas mais, un truc de conviction, c'est pas un truc
mais
de...
Mais toi, à l'époque de Get Busy, vous avez eu des problèmes avec des
rappeurs
artistes
On l'a entendu, des gens qui étaient pas contents, mais personnellement, jamais nous, on est venu... je sais pas, bizarrement, il y avait quand même... Alors, si tu veux, nous, ils nous respectaient parce qu'on a toujours
déjà,
été.
Il est grand.
Non, mais c'est parce qu'on a toujours été comme ça, déjà, d'une. Ouais. Parce que déjà, ils savaient d'où on venait. C'est-à-dire que, c'est quand nous, on a émergé, le fanzine et les rappeurs, on se connaissait tous plus ou moins d'avant, on savait qui était qui. C'était encore un microcosme. Le problème des autres magazines, c'est comme ils ont fait du public rédactionnel, que la plupart de leurs rédacteurs, bon, c'était quand même un certain profil social, qui n'était pas le même. Et à côté de ça, quand de temps en temps ils voulaient déborder et un peu mettre, tu vois, se permettre des choses,
ils n'étaient pas pris.
Les gens disaient attends, d'habitude tu fermes ta gueule et tu suces parce que tout le temps et puis là tu vas.
Là, tu
ou alors
fumer, quoi.
De temps en temps ils se réveillaient, mais pour allumer Bambi Cruz, quoi, tu vois, des trucs, ce qui est pas très difficile, quoi, tu vois.
C'est plus facile.
Bambi
Cruz que j'ai vu.
Mais je pense que si aujourd'hui on faisait
le Solar à la Philharmonie, ça passait très bien.
Si on faisait la même chose aujourd'hui, je pense qu'on aurait beaucoup plus de problèmes.
Ouais, quand même.
Sûrement.
Après, il y a un truc qui a changé. J'en profite pour inviter nos auditeurs, si c'est un sujet qui les intéresse, la presse musicale, la presse écrite, à écouter un épisode qu'on avait fait il y a quelques temps avec Brice Miclet et Simon Clerc, qui écrivent dans la presse musicale, par rap spécifiquement,
et qui racontaient. Il n'y a plus de presse rap, donc.
Et qui racontaient que c'était, il y avait un truc compliqué, enfin qui changeait avec le temps, c'est que les artistes ne souhaitent plus forcément s'exprimer dans les médias.
Déjà d'une. Et puis tu sais, il fallait voir comment fonctionnent
les interviews, c'est chaud.
Magazines. C'est-à-dire au bon moment, si la maison disque n'était pas contente, ils ne payaient plus les voyages pour aller là, ils ne prenaient pas la pub. Donc voilà, donc au bout d'un moment.
Le jeu vidéo après la relève.
Mais toute la presse, en vérité, toute la presse.
Toute la presse spécialisée qui dépend des annonceurs.
Ou alors si elle est plus dépendeuse des annonceurs, elle est dépendeuse d'un grand patron qui l'alimente, parce qu'aujourd'hui, tu regardes les journaux comme Libé, ça vaut que dalle, en vérité. La presse quotidienne, elle les moins, s'ils n'ont pas des drahis, des bouygues, des machins derrière eux,
financés.
Et là, tu en reviens à une question beaucoup plus dangereuse, c'est pourquoi ces gens-là investissent dans des journaux à perte, c'est bien pour guider l'opinion.
Bien sûr, 100%.
Donc voilà, au bout d'un moment, c'est le modèle économique du truc qui tient plus, quoi.
En fait, il n'a jamais tenu réellement, en vrai.
Bon, c'est un combat en général quand tu te lances dans ces métiers-là. Surtout si t'es en Inde.
Moi j'ai connu, parce que je suis vieux, effectivement, mais j'ai connu une époque où t'avais une presse quotidienne d'opinion, où t'avais l'Humanité, t'avais le Figaro, t'avais l'Aurore, chacun était différent les uns des autres, quoi, tu vois.
Ouais.
C'était. Et encore,
ouais,
c'était
à l'époque. C'était à l'heure actuelle aujourd'hui.
C'était pas 30 France différents, ouais.
Oui, là, en fait, en PQR, PQ tout court même, PQ, quoi, je suis d'accord. Mais la presse P, c'est plus différent, parce qu'en fait, en vrai, il n'y a jamais eu de modèle économique. Ils ont toujours dépendu à 3000% des annonceurs de leur domaine d'activité, donc forcément, tu ne vas pas les écorner, c'est les mecs qui t'achètent tes pages.
Un journal qui est sain, un journal qui vit, c'est normalement un journal qui peut survivre sans pub.
Ouais.
Après,
ça n'existe plus.
Ouais.
Moi, j'ai travaillé, alors c'est un modèle encore différent, mais pour un site web audiofanzine, qui lui vit en partie grâce à des magasins, des choses comme ça, etc.
Magasins, c'est pas pareil.
Ouais, mais parce que par exemple, ils ont un comparateur de prix et qu'en fait, voilà, le,
ouais, ça le magasin, c'est pas pareil.
C'est encore économique.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pu observer avec ce site, donc moi j'étais à l'éditorial, avec, on fait des tests aussi de matériel sur site, etc. Et je peux témoigner de l'absolue neutralité des testeurs, etc. Et je sais pas comment ça se passe chez les numériques, par exemple, c'est un peu le pendant, tu vois, tech par rapport à.
Bah maintenant, ça se passe plus pareil.
Dans l'audio pro. Ouais. Mais en tout cas, franchement, il y avait beaucoup de partenaires professionnels, distributeurs, marques, etc., qui, d'une certaine manière, respectaient l'engagement journalistique. Ouais. Parfois, ça pouvait arriver qu'ils gueulent, voire qu'ils se fâchent et qu'ils en voient plus après quand t'as été un peu trop dur avec un truc. Mais de manière générale, franchement, c'était en mode, c'est le jeu. Et peut-être qu'effectivement, notre produit, il est pas nickel, mais on sait qu'on enverra un bon produit, il y aura une bonne review derrière.
Bah, sauf qu'ils veulent plus jouer à ça.
Et qu'en fait, et qu'ils ont besoin. Alors, parce qu'Audiofanzine aussi a un monopole, entre guillemets, en France. Enfin, en tout cas, c'est la Bible pour le matériel parmi les musiciens. Et ils savent qu'ils peuvent pas s'en passer.
Ouais.
Les annonceurs.
C'est que t'es trop gros, pour
donc ils disent, vas-y, vous êtes objectif, on le sait, on vous l'envoie quand même parce qu'on a besoin de vous.
Sauf que pour un big qui vont respecter en mode, ok, vous nous avez trashé sur votre dernière chronique, mais on continue à vous envoyer des trucs parce que vous êtes incontournable, en fait. Il y a toute une palanquée d'autres acteurs qui, eux, se font gras et en mode si tu parles mal de mon truc,
je
t'envoie plus.
Que je pense que dans l'attaque.
Je crois qu'il y a des acteurs, j'espère en tout cas, j'ai envie de croire qu'il y a, y compris des maisons de disques, des labels, etc., parce qu'il n'y a pas que des salauds.
Mais non, parce qu'ils veulent pas, mais ils veulent pas jouer le jeu.
Je pense qu'il y en a qui croient encore à ça, j'espère.
C'est, moi, je le croyais aussi. La presse P, c'est plus possible, en fait. Parce que les mecs font la pluie et le beau temps. Parce que les marques, les studios, quand tu parles du jeu vidéo, tu parles de la tech.
Mais je vais t'expliquer.
C'est mort.
La presse P, c'est très simple. C'est-à-dire que si même toi, tu refuses le public actionnel, tu vas rester dans ce truc. Tous les autres l'acceptent. Donc toi, nous, ça a été ça. Justement, une fois, j'avais une discussion avec Kéry comme ça, et on parlait, il me dit, oh, la presse rap, je dis, vous avez eu la presse rap que vous méritez. Parce que vous avez tous joué le jeu. Vous voulez tous des chroniques qui disent la vérité, mais entre guillemets, ça veut dire qu'ils cassent les concurrents, mais pas toi. Parce que toi, tu l'acceptes pas, la critique.
Ouais, bah oui, c'est ça.
Et ça a toujours été comme ça. Donc, à partir du moment où nous, c'est pareil, le fanzine, pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'au bout d'un moment, les budgets pubs, ils allaient chez les autres. Nous, on n'avait pas de pub, on n'avait rien. Tu vois, donc au bout d'un moment, si toi, tu ne joues pas ce jeu-là, à moins que tu aies vraiment un public qui adhère à ça, mais même le public, il est formaté à ça.
Non, mais.
Si je regardais, par exemple, dans les émissions, je voyais des fois les commentaires, je pense que les gens sont tellement habitués à des. Ce qu'on appelle cette espèce de ce truc à la con là, la bienveillance là, qui est juste le nouveau nom du public rédactionnel qu'on joue. Et en fait, les mecs, une simple question franche, ça paraît comme une attaque. C'est genre, comment tu peux recevoir t'as agressé ton invité. Nous, il y a aucun invité qui est venu chez nous en partant dégoûté, en disant qu'il aurait jamais dû venir. Quoi, tu vois, ils ont tous passé un bon moment.
Mais
les gens sont même plus, même le public est plus habitué à des questions.
Si tu aimes, maintenant t'es un suceur. Si t'aimes pas, t'es un hater. Il y a plus de nuance. Ça c'est clair.
Ouais.
Mais tu vois, pour te montrer à quel point les acteurs ne jouent pas le jeu auquel toi tu parles en disant oui, mais ils acceptent les règles. Non, moi je me suis retrouvé à devoir me prendre la tête avec une marque tech que j'avais insultée et qui m'a dit c'est quand même pas cool alors qu'il n'y avait pas d'OP. C'est-à-dire que quand la marque elle fait une OP avec toi et que tu dis ok je vais parler du produit, pas de problème, ah merde j'en ai mal parlé, je suis désolé, et le mec te rappelle
après,
et
il y a mal parlé, critiqué,
tu prends pas ton billet, c'est normal.
Ouais,
tu vois,
mais là en fait il n'y avait même pas d'OP, c'est-à-dire que les mecs ils sont tellement en mode on règne sur le milieu, sur le biz, qu'ils se permettent de t'appeler ou de te chercher à te faire appeler pour dire ouais t'as quand même mal parlé de mon produit, et je leur ai dit mais nique ta mère parce que en fait il y a pas d'OP, je te dois rien, t'es pas
bien sûr.
Et le mec m'a appelé en mode le client est mécontent. Je dis mais le client de qui? Moi j'ai jamais parlé de quoi que ce soit, en fait pourquoi tu
vois, je me dis,
et ils se sentent légitimes à faire ça tellement ils font la pluie le beau temps,
peut-être que la tech ils ont quand même cette volonté de cet ego d'améliorer toujours leurs produits, alors peut-être qu'ils prennent les critiques, je sais pas.
La tech c'est comme tout, ils font des produits, des fois ils vont te faire un produit qui va être super cool, celui d'après il va être éclaté, c'est pas grave en fait.
Après chez les artistes il y a vraiment un truc d'ego, de fragilité entre guillemets aussi, c'est pour ça déjà c'est souvent ce qui nuit aux artistes, c'est-à-dire ils s'entourent que de gens qui les brossent dans le sens du poil. Tu vois, donc au bout d'un moment, tu vois, quand t'as 99 mecs qui te lèchent le cul, t'as pas besoin d'avoir un centime qui va te le botter, quoi. Et c'est souvent comme ça, quoi. Tu vois, et c'est le problème souvent des artistes, c'est qu'il y a plus personne pour leur dire que.
Ils sont éclatés.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu vois, ils vont rire à leurs blagues, même quand ça sent pas drôle. Ouais. Tu sais, les entourages, c'est soit t'as les potes, soit t'as les parasites, soit t'as les. Tu vois, les.
Je sais pas si c'est la norme, mais. la question de l'entourage dans les milieux émergents de musique. Il y a plein de gens qui accompagnent. La question de la santé mentale, la question de avec qui tu fais ton business, etc.
Ouais, mais mettre sur le même plan la santé mentale et le fait de pas accepter la critique.
Non, pas du tout. Enfin, ce que je cherchais à dire, c'est que il y a une vigilance, je pense, plus importante. Je sais pas si c'est encore la norme, mais qui va se développer de plus en plus, je pense, chez les jeunes artistes, sur l'idée que il faut bien s'entourer, pas que de gens qui vont dire que t'es génial, qu'il faut faire attention à ton ego, à machin, à pas te surmener, à plein. Je mets plein de trucs dedans.
Ils sont conscients de tout ça, en fait,
qu'il y a besoin d'avoir.
Au lieu d'être entouré de potes, ils vont être entourés de coachs.
En tout cas, de professionnels, mais c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Parfois, des professionnels plutôt que les potes. Après, il y a des professionnels incompétents, voire malveillants, mais il y a aussi des gens bien parmi les professionnels, heureusement. Et on en a besoin, mais en général, conscience dans la musique, d'être entouré de professionnels sérieux, quoi.
C'est sûr. Après, t'as aussi des potes qui s'envoient des rôles de coach.
Ouais, ça, c'est plus embêtant. C'est comme dans le foot, c'est rarement bon quand c'est ton tonton qui signe les contrats pour toi, tu vois.
Exactement.
Ouais, bon. On a fait un bon point, là, quand même.
Ouais, c'était bien.
On s'arrête là.
Ouais.
Parce que on l'a pas fait avec Reel Musul. Normalement, tu sais, on conclut cette émission à chaque fois avec des recommandations musicales. On l'a pas fait avec Musul parce qu'on avait écouté une vingtaine de morceaux déjà dans l'émission. C'est bon, tu vois. Là, on en a écouté moins. Est-ce que chacun, vous avez un morceau que vous avez envie de faire découvrir à nos auditeurs? Ça peut être n'importe quoi.
Barry White, découvrez Barry White.
Ça, on l'a déjà dit. Un autre. Mais c'est bien, tu le réitères, ils savent. Est-ce que t'as un truc que t'as découvert récemment, ou un de tes grands classiques que t'aimerais faire découvrir, tout simplement? Das, je sais pas si t'en as un de côté.
Ouais, moi, je suis tombé sur un truc qui m'a fait gaulerie.
Vas-y, comme ça, il a le temps de réfléchir, cher.
C'est
une question piège pour moi, ça.
Kingdom Hearts Key de JPEG Mafia, Danny Brown, avec le générique d'Evangelion samplé pendant tout le morceau. C'est incroyable.
Merveilleux. You think you know me? Ah mais oui, je reconnais.
Eh oui, Escaflowne. Oh non, c'est Evangelion, j'ai dit, c'est Escaflowne.
Ah, c'est Vision d'Escaflowne. Just one time, stick. All that money, get flush in a blink.
Shut a dribble, go give me a ring. You got money, you don't gotta think. I was just one time. Avec des variations et tout.
Je m'en remets pas du sample.
Ouais, il est chambé, hein. Et je trouve ça cool parce que, Vision of Escaflowne, c'est quoi, 1996, tu vois? Donc t'as des petits de 2023, ils te sortent des morceaux en samplant des animés de 96.
Ouais, en vrai, c'était vraiment bien, Vision of Escaflowne. Moi, j'avais maté ça, c'est Canal Plus qui le diffusait.
Ouais, c'est un isekai, c'est l'isekai le plus connu, je pense. Et ouais, c'est très cool.
Très, très bien. T'as trouvé, Cher, ce que t'as envie d'écouter?
Ouais, j'ai de sortir une vieillerie, moi.
Vas-y.
Alors, c'est Eddie Kendricks.
Ok.
And the Temptation.
Ok.
Et le morceau, c'est The Newness is Gone.
Allez, c'est parti.
Il y a rien d'un scoot Barry White, hein.
Mais dès qu'il y a des cordes, hein.
D'ailleurs, il me semble que ça a été samplé par un premier.
Je te le dis.
Ouais, c'est ça.
Là, c'est gratuit, là. C'est écrit MPC partout, là.
ça évolue un peu à moi.
Ah. Oh, le mauvais esprit.
Pas du tout le mauvais esprit, c'est juste que tu sais, on met pas des extraits trop longs parce que sinon, après sur YouTube, c'est compliqué. Et je savais pas s'il y avait une voix, alors j'avance. J'avoue que je vous ai lancé, mais j'ai même pas réfléchi à moi ce que j'avais envie de faire découvrir. Si tu sais quoi, j'ai dit que j'écoutais de plus en plus de jazz.
Oh putain.
Et j'ai une passion.
Pour le free jazz, let's
non,
go.
Non, je reste dans le. Je dans les trucs accessibles, hein,
ah,
globalement.
Okay.
Non, mais j'ai une passion pour Cannonball Adderley. Je sais pas si vous voyez ce mec.
Pas du tout.
Qui a notamment un album qu'il a enregistré avec, mais je crois qu'il y a Miles Davis aussi sur l'album avec lui, parmi les groupes.
Parce que,
ouais.
je ne vais pas dire de bêtises, mais quand on avait reçu Frédéric Tallier dans notre émission, je crois que c'était un de ses choix.
C'est vrai ?
Il me semble.
Ah,
bah, à vérifier, mais je crois que ouais, ça fait un
et bon réflexe. On a reçu Frédéric Tallier. Ouais.
Ça veut dire que t'as le même goût que Frédéric Tallier.
C'est possible.
Ah bah, c'est Salman. Hein. Il est éduqué.
Oui. Je ne sers pas tout. J'aime bien le personnage, je ne partage pas tout. Donc, j'espère ne pas tout partager avec Frédéric Tallier. Bref, Something Else, absolument incroyable, cet album de Cannon Bon Allerly. Et ouais, sur lequel tu vois, il y a Miles Davis, Hank Jones, Sam Jones, Art Blakey. Bon, tu vois, que des grands. Et il a eu Miles Davis parce que je crois qu'il était dans le groupe de Miles Davis, Cannonball Adderley. Bref. Mais c'est pas sur cet album-là, je vous invite vraiment à écouter Something Else, qui est complètement fou, qui est un grand classique, hein, qui est souvent cité parmi les trucs assez accessibles. C'est le Kind of Blue de Cannonball Adderley, en gros. Et il a un de ses grands classiques que j'adore, mais qui est pas sur cet album, qui s'appelle Work Song. En fait, dans le jazz, il y a des thèmes jazz. Daz, pardon, il y a les thèmes. Et là, ça fonctionne tellement, ils sont forts pour ça, regarde ça.
Ouais, c'est la musique des entrechats, quoi.
Sauvez-moi. C'est pas beau ça?
Des aristochats même. Ouais. Oui, c'est mimes.
Oui, les entrechats, les aristochats, c'est pareil.
Oui, bah, c'est pareil.
Au ça point où on en est.
Il y a toujours un mec qui a accoudé au piano qui fait.
Ouais, voilà. Exactement.
Eh ben oui, c'est moi. Et alors, hein, comme...
Je me disais bien que t'avais vu quelque part.
Bon, merci beaucoup, Cher, d'être venu nous voir.
Merci à vous.
C'était cool. Merci évidemment à la bouclette pour toute la technique, Sam et Flav aujourd'hui. Merci à François aussi pour le montage. Merci Daz.
Merci Salman. Merci
Cher. Avec plaisir. Merci Thomas, évidemment, notre sponsor. Ouais, tu veux dire quelque chose?
Je rappelle juste que l'anthologie est toujours disponible dans les Fnac, Amazon et partout. Et le livre de Horrible Musul sur George Clinton et le P-Funk.
Celui dont on a parlé il y a 15 jours.
Attends, mais t'inquiète.
Deux excellents bouquins à voir.
Absolument. Je sais que sur l'émission avec Musul, il a passé son temps à dire « Mais la suite, c'est dans le bouquin. Je n'en dis pas plus,
cool, hein.
Car c'est dans le bouquin. » Ouais, ouais, franchement,
ça va. Après, Musul avait instauré ça lui-même. Genre « Non, mais attendez, ça, je veux pas le dire. »
Ouais, 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 fort, non, c'était cool. C'était très cool.
Il est bon, Musul, il est bon.
Il est bon, indéniablement. Par contre, c'est au moment où je parlais de notre sponsor, que tu as que t'as parlé de ton propre bouquin. Tu veux faire concurrence à Thomas, c'est ça?
Non, jamais. On a acheté des chaud chez Thomann.
J'espère bien.
Mais bien sûr.
Parce que tout le monde achète chez Thomann. Tout le monde sait que c'est le meilleur le service d'Anne.
Bien sûr.
C'est Thomann, là où on trouve tout pour la musique.
Thomann, on stan.
Au meilleur prix.
Bien sûr.
Au meilleur prix. Non, ça, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément le moins cher.
Mais c'est le meilleur service.
Mais de très loin.
Ouais.
Mais et là, je le dis objectivement, il me demande rien de dire, tu vois.
C'est pas toujours le moins cher, mais c'est souvent le moins cher.
En tout cas, c'est souvent proche des prix les moins chers. Mais ils se sont fait connaître en cassant les prix, honnêtement, Thomann. C'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, le service est fou. Le catalogue est fou. Aucun équivalent.
Ouais.
Bref, voilà.
D'ailleurs, faudra que je parle hors antenne.
Ah oui, tu veux acheter des choses?
Voilà.
On peut peut-être voir ce qu'on peut faire.
On peut voir ça.
C'est pas gratuit, mais il y a une petite réduction pour.
On remercie. On remercie
Influenceuse avec un promo.
Ouais. Non, que pour nous, c'est pas pour les gens, j'aimerais bien. Mais...
Oui. On remercie Flav et Sam aussi.
Je l'ai déjà fait, mais
ah,
bien
tu l'as
sûr,
déjà fait, parce que j'ai entendu François.
Non, mais mieux vaut deux fois qu'une.
C'est vrai, Flav et Sam. On se retrouve sur Call of dans pas longtemps. Et voilà.
Et voilà. Et on se retrouve dans 15 jours.
Bien sûr.
Avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Mm-hmm. Alors, je vous dis, là, honnêtement, Daz, j'en chie, mais j'ai quasiment 10 invitations de lancer, etc., discussions et tout, avec des gens ultra intéressants, mais parfois un peu compliqués.
Alors, c'est des artistes.
Je sais pas quel sera le prochain, mais promis, cette saison, il va y avoir des trucs très très cool. Je sais pas quand. Voilà. Mais chaque émission est intéressante après tout.
Dès qu'il sort de prison.
Exactement.
R. Kelly. On attend R. Kelly.
Oh non.
Jamais de la vie. Dans 15 jours.
Ciao.